l'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Bon, ça fait qu'on va commencer ce soir dans l'école du ministère surnaturel. Vous êtes des créatures surnaturelles, n'est-ce pas? Amen. Et puis, on poursuit, on est dans notre cinquième soirée où on se consacre pour l'étude du ministère surnaturel. Et en conduisant ici, je pensais justement, je devrais vous encourager à revoir les choses qu'on a déjà vues ensemble. Certains d'entre vous, vous avez peut-être été absents. Et même si vous l'avez entendu une fois, à force de l'écouter, ça va plus descendre en vous. Même des fois, peut-être deux fois, trois fois. Et puis, on va sortir les notes aussi dans un genre de livret après, quand ça va sortir, quand on va avoir tout terminé. Parce que je pense que c'est important pour nous de revoir ces notes-là, revoir les versets, revoir les notes qu'on a discutées ensemble. Donc, juste vous dire tout ça, parce qu'on ne veut pas simplement apprendre des choses, mais on veut, dans le sens où on ne veut pas simplement entendre des choses, mais on veut les absorber, puis vraiment, on veut vivre différemment, on veut avoir une vie différente, on veut avoir toujours comme la disposition à œuvrer avec le Saint-Esprit. Puis ça devrait être comme ça notre vie, toujours être conscient. On ne veut pas retourner en arrière, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, parce qu'on va de gloire en gloire, on progresse à tous les jours. Ça fait que les choses qu'on a apprises, qu'on a dit, OK, ça, j'y crois, je veux vivre ça, on ne veut jamais retourner en arrière et retomber ou retourner dans les choses habituelles. On veut toujours s'approcher du Seigneur. Et puis, la façon de le faire, c'est de demeurer dans la parole et de baigner dans les choses qu'on a apprises. Donc, on va juste prier ensemble. On va commencer, on va remettre la soirée entre les mains de Dieu et puis on va plonger dans le thème de la soirée. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur. On te remercie, Seigneur Dieu, pour le privilège que nous avons d'être rassemblés ici. On te remercie, Esprit de Dieu, pour ta présence avec nous. Merci parce que tu nous enseignes, tu nous révèles des choses. On veut vraiment déclarer que cette classe est remplie de ton onction, que chaque personne ici reçoit de toi. Nous sommes ouverts, nous sommes vraiment à l'écoute, Seigneur Dieu, de ta voix. Pendant l'enseignement, Seigneur Dieu, je te prie de remplir ma bouche avec tes paroles. Et Seigneur Dieu, je prie vraiment que tu puisses ouvrir nos oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire ce soir. On te remet cette soirée, on te glorifie à l'avance, on te remercie parce que tu es un Dieu merveilleux, tu as des projets de paix pour nous ce soir, puis on veut juste te remercier à l'avance pour les choses qu'on va vivre ensemble. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Donc ce soir, on poursuit dans l'étude l'école du ministère surnaturel. La cinquième leçon, c'est comment recevoir ou discerner les paroles prophétiques. En voyant le thème, peut-être vous posez la question, comment recevoir une parole prophétique? Peut-être vous vous dites, ben si j'étais dans une réunion, quelqu'un prophétise sur moi, je vais juste recevoir comme ça. Mais on ne parle pas vraiment de la réception comme ça. On parle plutôt au niveau du discernement. Comment discerner quand on reçoit une parole? Parce que c'est une chose d'entendre des paroles, mais là, après, Dieu s'attend qu'on va prendre cette parole-là et on va livrer le combat de la foi avec la parole. Donc, si on ne prend pas le temps même de vraiment comprendre la parole, ben comment pouvons-nous livrer le bon combat de la foi avec la parole? Donc, ce qu'on va faire, premièrement, on va aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 19 à 21. Concernant le prophétique, on doit comprendre que l'Esprit de Dieu se révèle constamment. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre parmi nous. Et je peux vous dire que dans l'Église en ce moment, je dis gloire à Dieu parce que plusieurs personnes reçoivent des paroles prophétiques, des visions, des songes. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre parmi nous. Des fois, à la fin des réunions, comme on a ce soir, je demande aux gens s'il y a des témoignages. Et j'ai remarqué que les gens sont assez timides à ce niveau-là. On ne veut pas trop témoigner, mais après, dans la semaine, j'entends toutes sortes de témoignages, donc ça m'encourage et je tiens à vous le dire ce soir pour pas que vous pensiez qu'il n'y a rien qui se passe. Je le sais qu'il y a plein de choses qui se passent. Plusieurs personnes me témoignent constamment des révélations que l'Esprit de Dieu donne en ce moment. Et je trouve ça super bénissant parce qu'on est en train de découvrir des choses nouvelles. Peut-être certains d'entre vous, vous aviez déjà vécu des choses dans le passé, puis là, vous êtes en train de brasser tout ça pour vivre encore plus des dons de l'Esprit. Donc, on fait juste se réjouir de tout ça. Donc, ce soir, on veut juste commencer avec le premier point et comprendre que nous avons une responsabilité envers le Seigneur lorsque nous avons une parole prophétique. Lorsque quelqu'un nous donne une parole prophétique, nous avons une responsabilité. Une des choses qu'on doit comprendre, des fois, admettons, ça fait 25 ans que vous avez reçu une parole prophétique et vous dites, mais cette parole ne s'est jamais encore accomplie. Et ça se peut très, très fortement, ça se peut très bien que c'est vrai que cette chose-là ne s'est jamais réalisée dans vos vies. Mais il ne faut pas avoir l'attitude passive et dire, ben que sera, sera. Mais Dieu s'attend qu'on va prendre la parole et là, on va discerner la parole et on va livrer le combat de la foi pour la parole. Donc, on veut comprendre certaines choses parce que c'est super important pour nous de réaliser qu'on a notre part à jouer là-dedans. C'est pas juste assez d'entendre la parole, mais on doit se positionner aussi pour voir ces choses-là arriver. Donc, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 19 à 21, il est écrit « N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Donc, la première chose qu'on veut voir, ne mettez pas toutes les paroles prophétiques que vous avez reçues sur la tablette. C'est souvent notre réaction. On reçoit une parole prophétique, puis on dit « Ah, ben c'est bon, je vais mettre ça sur la tablette. » Mais vous savez, des fois, on met des choses sur la tablette et puis on l'oublie. Peut-être que vous ne savez pas ce soir ce que vous avez sur votre tablette, dans votre garde-manger. Peut-être que vous avez des bines, des petits pois. Peut-être vous avez du macaroni. En ce moment, peut-être vous savez parce que vous venez de faire l'épicerie. Mais peut-être ça fait une semaine que vous n'avez pas fait l'épicerie. Peut-être vous avez oublié ce que vous avez dans votre garde-manger. Est-ce que ça se peut? On met les choses sur la tablette puis on oublie. Puis après, des fois, 6 mois plus tard, on dit « Ah, j'avais un gâteau aux fruits. J'avais oublié que j'avais un gâteau aux fruits dans mon garde-manger. » Et puis, c'est encore bon, n'est-ce pas? Parce que ça dure éternellement, ces gâteaux-là. Mais tout ça pour dire, on garde les choses sur la tablette des fois, mais faut pas les laisser là indéfiniment. Des fois, on peut mettre une parole sur la tablette quand on ne comprend pas. Admettons, quelqu'un vous donne une parole, puis OK, dans votre esprit, vous recevez, mais vous n'êtes pas sûr à 100% qu'est-ce que ça veut dire ou l'implication. Vous mettez ça sur la tablette jusqu'à temps que l'Esprit de Dieu vous le révèle, c'est correct. Mais si vous laissez toutes les paroles sur la tablette, bien, vous cuisinez jamais. Et puis, c'est pas bon. Hein? Vous n'avez rien à savourer dans vos vies. Mais on veut recevoir les paroles prophétiques et savoir comment les recevoir, comment les discerner pour les appliquer dans nos vies. Donc, ne mettez pas sur toutes les paroles prophétiques sur la tablette. Valorisez les paroles que vous savez viennent du Seigneur. Donc, quand vous avez reçu une parole de Dieu, c'est important de valoriser ces paroles-là. Il y a des gens qui peuvent dire, « Ah, ben moi, les paroles, ça me passe 2 pieds au-dessus de la tête, je m'en fous. » OK, en France, il ne faut pas le dire, là, mais au Québec, on peut le dire. J'en suis indifférent, par exemple. Okay? Ça me laisse indifférent recevoir une parole prophétique. Bien, si vous êtes indifférent, vous n'êtes pas en train d'accomplir la parole de Dieu qui dit « Ne méprisez pas les prophéties. » C'est une façon, c'est une sorte de mépris. Si on est là, puis on dit « Bon, que j'en reçoive ou non, moi, je m'en fous. » Ça, je suis totalement indifférent. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu choisit de parler à quelqu'un pour vous, ça vous laisse indifférent. C'est triste, ça, n'est-ce pas? Parce que les dons du Saint-Esprit sont pour nous, justement, des cadeaux de Dieu. Donc, on devrait valoriser ce que Dieu nous donne. Puis si on valorise ces choses-là, si on ne méprise pas les dons du Saint-Esprit, on risque de vivre encore plus parce que l'Esprit de Dieu voit qu'on se réjouit quand on reçoit quelque chose de Dieu. Voyez-vous? Donc, ici, on parle de valoriser les dons du Saint-Esprit. Et si on valorise ces dons-là, on devrait souvent les écrire. Moi, ce que j'ai fait dans ma vie, pas dans ma mort, hein, n'est-ce pas? Ce que j'ai fait jusqu'à présent, quand j'ai reçu une parole prophétique, à l'époque, j'avais des cassettes audio dans l'ancien temps, hein, des cassettes audio. Donc, j'ai mes paroles sur cassette audio que j'ai conservées. Mais après, je les ai transférées aussi en digital, en format digital, pour les avoir dans mon ordinateur. Et j'ai transcrit. Des fois, admettons, si c'était dans une émission de télévision où je ne pouvais pas l'avoir en cassette, bien, je pouvais mettre, admettons, sur pause la prophétie qui était à la télévision. Puis là, je l'écrivais pour l'avoir dans mes dossiers. Parce que c'est important, si on veut livrer le bon combat de la foi, puis on oublie tout ce que Dieu nous a dit, c'est difficile, n'est-ce pas? Donc, c'est bon de prendre ces paroles-là, les transcrire et les garder. Même les choses que vous avez reçues pendant les 4 premières semaines que nous avons eues ensemble, peut-être vous avez reçu des paroles qui vous ont vraiment béni ou des visions. Mais écrivez ces choses-là pour vous rappeler des choses que le Seigneur vous a révélées. Là, vous faites retourner et revivre ces choses-là. Faites-les revivre et même prier que l'Esprit se révèle davantage concernant les paroles prophétiques que vous avez reçues. Donc, c'est ça qui est excitant et c'est pour ça que je vous ai dit, dès la première soirée, écrivez et conservez les paroles que vous recevez. Ça va vous encourager. Donc, le texte que je viens de lire, c'était tout simplement « N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. » Je vous lis dans la Bible du Sommeur. « Ne méprisez pas les prophéties. » Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et ce soir, c'est ça qu'on va faire justement. On va examiner les choses, on va examiner les choses prophétiques pour voir comment nous pouvons garder les choses qui sont bonnes, comment nous pouvons retenir les choses qui sont bonnes. Il y a des choses, des fois, on va dire, ah ben ça me bénit pas ou je ressens rien à ce niveau-là. Quelqu'un m'a donné une parole, admettons, trois quarts de la parole, vraiment, je ressentais que c'était de Dieu. Puis il y avait une portion, c'était comme, bah, ben, la partie bas, admettons, vous pouvez mettre ça sur la tablette. À moins que ça soit anti-biblique, puis là, vous savez, OK, non, la personne s'est vraiment trompée. On rejette tout simplement la parole et on continue. Mais on va voir d'autres choses ce soir concernant ce qu'on doit faire avec des paroles quand on est incertain. OK, on va aller ensemble maintenant dans 1 Timothée, chapitre 1 et le verset 18. Ici, on a une exhortation que l'apôtre Paul a donnée à son fils spirituel, Timothée. Donc, 1 Timothée, chapitre 1, et le verset 18. Il est écrit, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » Voyez-vous? Donc, vous avez des paroles prophétiques qui ont été déclarées sur vos vies. Jusqu'à présent, si vous n'avez pas reçu encore, bien, laissez l'Esprit de Dieu continuer à travailler parmi nous parce que le Seigneur va vous parler forcément. Si on est à l'écoute de l'Esprit de Dieu et on est ouvert au don du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va nous parler. Et on va recevoir quelque chose de Dieu, c'est sûr et certain. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas pris sa retraite. Dieu est encore vivant et c'est juste la vie normale, la vie chrétienne normale. Vivre sans les dons du Saint-Esprit, c'est l'Église anormale. Mais on est une église normale, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu va nous parler et Dieu va se révéler à vous. Mais là, ça dit d'après elle, d'après les prophéties, combat le bon combat. Donc, on va prendre ces paroles-là et on va dire, Seigneur, tu as dit cette chose-là. Quand vous avez trié la parole, quand vous l'avez examinée, vous savez, ça, c'est vraiment de Dieu. Dieu me parle vraiment ici. Je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Là, vous faites prendre cette parole-là et déclarer dans la prière, Seigneur, tu as dit, donc je crois que cette chose va se réaliser. Et vous livrez le bon combat. Le bon combat. Vous faites prier en esprit et commencez à laisser l'Esprit de Dieu vous révéler des choses, même vous donner des visions. Peut-être Dieu va vous parler avec des songes concernant les paroles que vous avez reçues. Donc, il y a toutes des belles choses qu'on peut vivre, mais il faut comprendre premièrement que nous avons une responsabilité envers ces paroles-là. C'est pas assez des ententes. C'est ça le problème souvent qu'on a eu dans le corps de Christ. On est allé en avant dans une réunion, il y avait un ministère prophétique qui était là, qui relâchait des paroles. On est comme ça, les mains levées dans les airs, on reçoit, c'est beau, on s'en va à notre banc, et puis on dit, ben, j'espère que Dieu va faire quelque chose. Bien, c'est correct d'espérer, mais Dieu nous appelle à faire plus que juste espérer. Il nous dit, combat, le bon combat. Ça veut dire qu'on a notre rôle, notre responsabilité, n'est-ce pas? OK. J'ai reçu une parole prophétique. J'avais pensé peut-être vous faire écouter ça, sauf que c'est en anglais. J'ai reçu une parole prophétique de la prophétesse Cindy Jacobs. Et puis, certains d'entre vous, peut-être, vous la connaissez. C'est une femme de Dieu avec un ministère prophétique très précis. Je pense que je vais vous faire écouter. C'est une petite prophétie assez courte, peut-être 3 minutes, sauf que c'est une parole en anglais. Après, je pourrais vous donner un petit peu un résumé. Mais juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait par la suite. Donc, je vais voir si ça fonctionne avec ça, mon petit boombox. Si ça ne marche pas, ça ne sera pas la fin du monde. OK. Donc, ça s'est passé en Alberta.
Son, the Lord has you here for a season, but you will start a French-speaking television show. The Lord says, so many French-speaking people, they don't know English, so they don't get the gospel. And they even pray to me, but they don't know me. And God says, I will make you a voice. I will make you a voice, for you are sent to the French-speaking people, and I have brought you here to train you. And the Lord said, I have not brought you in exile. I have brought you in blessing. But it is difficult for you at times. It is difficult, but the Lord says, you have chosen the right portion. And even some would question you and say, what are you doing up there in Lethbridge? But the Lord would say, I would give them a heart to understand, even those of your own family. I will give them a heart to understand, says God. And so the Lord says, get full of the word and prepare, for one day you will preach in French to a nation.
OK, donc le résumé de cette parole-là, Cindy Jacobs, c'est une prophétesse vraiment avec un manteau sur sa vie, un manteau prophétique très particulier. C'est une femme qui a déclaré en Argentine, elle parlait à l'Église puis elle disait, si l'Église du Seigneur ne se repent pas, il va y avoir du sang qui va couler dans vos rues. Et puis les pasteurs là-bas en Argentine, ils n'ont pas cru sa parole. Et puis dans la semaine suivante, il y a eu une révolte en Argentine, puis il y avait le sang qui coulait dans les rues. C'est une femme qui rencontre les présidents des nations, un ministère prophétique très, très, très précis. Donc, je suis là dans mon église locale en Alberta, et puis elle nous sort de la foule, Mathilde et moi, puis elle se met à prophétiser que Dieu nous appelait à rejoindre le peuple francophone à travers la télévision. OK, donc après, j'ai eu d'autres confirmations prophétiques à ce niveau-là. Donc, c'est des choses que je vous dis, que vous connaissez déjà. Puis elle disait, dans la parole, je t'ai pas emmené dans l'exil, mais je t'ai emmené dans la bénédiction. Puis je t'ai emmené ici, en Alberta. C'est pas pour t'exiler ou rien de ça, mais c'est pour te former, pour ce que je t'appelle à faire plus tard. Donc, en tout cas, tout ça pour dire, j'ai reçu cette parole-là. Là, on peut dire, OK, on a reçu une parole prophétique. Qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, ce que j'ai fait, comme vous savez, quand on est revenu au Québec, là, on savait que Dieu nous appelait à faire quelque chose pour le peuple francophone. Mais là, on était un petit groupe quand on a démarré. Et là, on priait les mercredis soirs chez mes parents. Moi, comprenez, j'ai cette parole-là en moi. Cette parole-là et plein d'autres paroles que j'ai reçues. Là, j'ai ces paroles-là, mais il n'y a rien dans le naturel qui démontre que ça va arriver. Okay? Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas de caméra de télévision dans le sous-sol chez mes parents. Comme vous pouvez imaginer. Donc, je devais voir ces choses-là avec les yeux de la foi, les yeux spirituels. Et là, on priait, on disait, Seigneur, envoie-nous l'équipe pour faire ce travail-là, parce que tout seul, on sait qu'on ne pourra pas y arriver. Donc, on a reçu la parole prophétique qu'on a cru. C'est une chose, on peut recevoir une parole puis dire, ça n'arrivera pas. Ça ne se peut pas à travers moi. Dieu va faire ça par quelqu'un d'autre. On peut carrément refuser la parole prophétique, n'est-ce pas? Donc, on peut l'entendre et dire, bon, j'y crois pas. Mais si on reçoit la parole et on dit, OK, je crois que ça vient de Dieu, là, on peut livrer le combat. Donc, c'est ça qu'on faisait. Dans le sous-sol, chez mes parents, on priait puis on déclarait des choses, comme on a pris toutes les prophéties que j'avais reçues puis on commençait à les déclarer puis prier ces paroles-là pour que ces choses-là se produisent. Bon, par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? Là, avec la parole, là, je me suis dit, ben Dieu m'appelle à faire une émission francophone. Donc, j'ai contacté mon frère Patrick, qui est responsable des médias à l'Église. Et puis, j'ai dit, bien, on va prendre un pas de foi, puis on va démarrer une émission de TV. On va commencer. On a loué un local, ici à Granby, Imperial Tobacco. Donc, dans l'édifice d'Imperial Tobacco, ici à Granby. On a loué une place, un petit studio, mais c'était très mal isolé. Mais là, je suis allé par la foi. OK, on va louer une place, puis on va commencer à filmer. On a acheté les caméras, on s'est équipé pour commencer à faire ce qu'on avait à faire. Et là, on avait décoré aussi, c'était assez simple, mais on avait pris les pas par la foi pour commencer l'émission de TV. On commence une émission, mais ça va mal. Là, j'entends le voisin, parce que vous savez, cette place-là, il y a plusieurs artistes qui sont établis dans l'édifice d'Imperial Tobacco. Et puis là, on entendait des frappements de marteaux, on entendait de la musique, on entendait tout ce que vous voulez, on entendait toutes sortes de bruits. Puis j'étais là, j'étais assis, on avait acheté un petit bureau pour faire les émissions de TV, on avait commencé peut-être avec le disciple victorieux. On est là, ça nous coûtait 100$ par mois, la location. Imaginez, pas cher, hein? Je me suis dit, on est capable, on va y aller avec la force qu'on a, on loue un petit bureau, comme ça, on va filmer. Mais tout allait mal. On était là, puis c'était, moi, je ne voulais pas travailler en quétaine. Je me suis dit, je veux bien faire les choses. Donc, on avait investi quand même de l'argent, mais on avait acheté le matériel qui était bon, comme les caméras, tout ça. Mais là, ça n'allait pas trop, trop bien. Mais Patrick avait filmé, on avait tout installé pour le faire. Là, je regarde un petit peu ce qu'on avait fait. J'étais comme, non, j'aime pas ça. Et puis c'est pas la faute de Patrick. On y allait avec la force qu'on avait. Et puis là, on dit, OK, on va réessayer, on va retourner. Puis on est retourné au studio et on a refilmé une autre émission. Et là, on entend. Je suis comme, là, j'ai dit, Patrick, si on a un autre coup de marteau, un autre bruit, j'ai dit, on arrête là, puis on défait le studio. Il dit, OK, je commence l'émission. Puis après, je suis comme, OK, c'est fini. Là, je me suis levé, j'ai défait le studio tout de suite en me levant. Je ne sais même pas si j'ai enlevé mon micro. Mais c'était comme, c'est fini. Qu'est-ce que je venais de comprendre? On n'est pas dans la saison. J'ai dit, quand ça va être le temps de Dieu, ça ne sera pas comme ça. Sauf que, voyez-vous, on a reçu une parole prophétique. J'y croyais, là. On va le faire. Mais quand c'est de Dieu, c'est pas broche à foin comme ça. Vous comprenez? Puis, mais quand même, je me suis dit, des fois, on reçoit une parole de Dieu, puis il faut activer la chose, il faut prendre un pas de foi dans l'obéissance pour que ça l'arrive. On va pas juste dire, ben je vais être chez moi. Dieu l'a dit qu'on va faire une émission de TV et puis quelqu'un va venir frapper à la porte pour me sortir de mon lit. Hey, viens t'en animer. C'est pas comme ça que ça arrive. Faut toujours prendre un pas par la foi. J'ai pris ce pas-là par la foi, mais avant le temps. Avant le temps. Et puis, j'ai appris ma leçon. Non, j'ai dit à Patrick à l'époque, j'ai dit non, c'est pas la saison. Parce que quand ça va être la saison, ça va être béni de Dieu. On la voit pas, la bénédiction. Ça fait qu'on va attendre. Sauf qu'on n'a pas gaspillé d'argent parce que les caméras ont été utilisées pour faire les réunions en direct, pour filmer tout ce qu'on fait. Donc, c'était correct pour ça. Mais tout ça pour vous dire, on peut recevoir une vraie parole de Dieu, mais le timing, la saison, le discernement de la saison compte pour beaucoup. Beaucoup de personnes sont avant le temps ou en retard. Mais être en retard, c'est pas bon. Puis être trop à l'avance non plus, c'est pas bon. Donc, ce qu'on veut faire, c'est on veut pas précipiter les choses. On veut être selon le timing de Dieu. Comme vous connaissez maintenant, avec l'arrivée de EMCI en 5 mois, Canal International qui démarre au mois de septembre de cette année, là, on voit que tout tombe en place. Tout tombe en place, puis c'est béni. Hein? Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas un décor qui éterne, il n'y a rien de ces choses-là. C'est béni de Dieu. Mais il fallait attendre plusieurs années, parce que quand on a démarré l'Église en 2008, c'est là probablement, 2008-2009, quelque chose comme ça, où j'ai pensé, OK, on doit faire quelque chose. Mais le quelque chose, la première chose que Dieu nous demandait de faire, c'était de livrer le combat dans la prière. Tout simplement, prier et accoucher les plans de Dieu. Vous savez, Dieu nous appelle à accoucher les plans de Dieu. Saviez-vous ça? Accoucher, c'est vraiment quasiment littéral l'affaire. Parce que je peux vous dire, quand j'étais là-bas en Alberta, quand je venais juste d'arriver, le mardi soir, je pense que c'était la première réunion où j'allais à l'église. Le mardi soir, je sens l'Esprit de Dieu me dire « va prier dans le salon ». Et puis on était dans une maison mobile où on avait été invité là-bas, puis on avait emprunté une maison mobile pendant notre premier mois qu'on était en Alberta. Sauf que là, je me retrouve là, dans la maison mobile, et puis je me mets à prier. Je prie, je ne sais pas pourquoi, mais je commence à respirer très, très fort, comme si j'étais en train d'accoucher. Puis je ne comprenais pas pourquoi, mais j'étais à genoux dans le salon en train de prier. Puis là, je suis en train de respirer fort, puis je n'avais jamais vécu une chose pareille. Je respire fort, je prie. Et le lendemain, c'est le mercredi soir, là, je vais à la réunion de prière. Et puis John Dewart, qui a prophétisé plus tard aussi, j'ai une de ses prophéties que je ne vous ferai pas écouter ce soir, mais tout ça pour dire, elle a donné une parole prophétique, puis elle disait, le lendemain, j'ai compris ce que j'avais vécu tout seul. Elle dit, il y en a ici qui sont en train d'accoucher des nations. Puis là, elle a dit, et toi, Joël? Elle m'a pointé du doigt, puis là, de même, pow, devant tout le monde, puis là, j'ai été comme parti quelques heures. Mais sauf que des fois, oui, accouchons les paroles prophétiques que Dieu nous a données. Sauf que des fois, on peut dire, ah, mais je comprends rien de ça. C'est là où on vit le surnaturel. On n'est pas appelé à vivre juste le terre à terre, mais le surnaturel va impliquer notre foi, nos prières, toute cette vie de prière-là, notre consécration, puis aussi notre écoute. Puis des fois, on peut se tromper dans le timing, mais c'est là où on ne veut pas se tromper, parce que si on se trompe, on peut passer à côté des grandes choses que Dieu en réserve pour nous. Vaut mieux des fois se retirer, si on réalise, ah, je suis en train de devancer les choses, vaut mieux se retirer un peu, puis dire, OK, on va attendre, que de continuer, poursuivre, puis après passer à côté carrément. Ça, c'est juste des conseils que je vous donne, des choses que moi j'ai vécues. Il vaut mieux attendre. Donc, voilà une illustration que je vous ai donnée de ma propre vie. Donc, la prière dans le sous-sol chez mes parents, le démarrage un petit peu trop rapide et le discernement de l'époque. Donc, ce soir, on est en train de voir comment on peut discerner des choses pour nos vies. Bien, vous savez, si vous devancez les choses, vous pouvez quand même reculer un peu, à moins d'avoir investi trop. Admettons, si j'avais dit, ben là, je vais hypothéquer ma maison, Dieu m'a donné une parole, j'ai hypothéqué ma maison, puis regarde, on va vendre nos enfants, puis, hein? Puis là, on va tout faire pour que ça l'arrive. Quand c'est Dieu, on n'est pas obligé de tout faire ces choses-là. OK? Vous comprenez? Quand c'est Dieu, on voit la main de Dieu. Quand on prie, on va voir la main de Dieu. Et c'est ça qu'on a vu après, quelques années plus tard. Je ne me souviens pas en quelle année que les Sourdrilles sont arrivés. C'est les premiers à arriver. Peut-être en 2010. Ça va faire 5 ans, sont ici. Mais pas longtemps après, l'Église a 6 ans. Donc, c'est ça, après la première année, les Sourdrilles sont arrivés. Après les Lebeaux, puis on voit toutes les choses qui ont commencé à se mettre en place pour justement répondre à l'appel de Dieu pour le mandat que tu nous avais donné, le mandat de rejoindre le peuple francophone. Sauf que tout ce qu'on vit, c'est l'histoire d'un miracle qu'on ne peut pas fabriquer nous-mêmes. On peut essayer, mais si on essaye, comme vous voyez, ça ne marche pas bien. OK, donc comment interpréter les paroles que nous recevons? Il y a 3 types de paroles que nous font recevoir. Premièrement, une parole biblique. Ça, c'est assez facile savoir si c'est bon. Hein? Quand ça vient de la parole de Dieu, vous pouvez dire oui et amen très facilement. Quelqu'un me dit, admettons, ah, tu ne manqueras de rien, toi. Bien là, ce que j'entends, c'est le psaume 23. Si c'est une parole biblique, je peux dire amen très, très facilement. OK, donc si vous recevez une parole biblique, c'est une parole prophétique, mais quelqu'un vient vous dire, hey, ce soir, j'ai vraiment à cœur de dire le verset qui dit, va aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Je crois que Dieu t'appelle à prêcher la bonne nouvelle. Bien là, vous ne pouvez pas dire, oh, je ne sais pas, il faut que je prie là-dessus, voir si Dieu veut vraiment que je prêche la bonne nouvelle. Non, c'est sûr et certain, c'est pour tout le monde, ça. C'est une parole prophétique, mais là où ça nous bénit, c'est quand on recherchait, par exemple, la face de Dieu, puis on priait spécifiquement, « Seigneur, veux-tu que je fasse ceci ou cela? » Et quelqu'un arrive avec un verset qui vient confirmer ce qu'on avait déjà dans notre cœur, c'est là où on se réjouit. Donc, une parole prophétique peut être certainement biblique et vraiment bénissante. Cette parole-là peut vraiment nous bénir parce que ça répond à un besoin dans notre cœur ou une prière qu'on a priée. OK, donc, une deuxième sorte de parole, une parole extra-biblique. Donc, on a vu une parole biblique, une parole extra-biblique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une parole anti-biblique. Ça, on va y arriver. Une parole extra-biblique, ça veut dire que c'est une parole qui vient de Dieu, OK, ou qui peut venir de Dieu, qui n'est pas forcément biblique, dans le sens qui n'est pas forcément un verset de la Bible, mais qui vient répondre à une chose que vous avez dans votre cœur. Okay, donc, c'est un message spécifique, personnel, mais non spécifié dans la Bible. Est-ce qu'on peut recevoir une parole comme ça, une parole extra-biblique? Oui, certainement. Comme on venait de se marier, ma femme a reçu une parole du prophète Eugene May, puis il a prophétisé sur elle. Bon, elle venait de recevoir le rapport qu'elle avait une maladie. Et là, il a donné une parole. Il dit, Mathilde, Dieu est en train de tout restaurer dans ton corps, et puis il te guérit en ce moment, et puis tu vas être une source de guérison pour des gens. Dieu va te confier un ministère de guérison. Ça, c'est extra-biblique parce que ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu que Mathilde était pour avoir un ministère de guérison comme tel. Sauf que nous avons tous l'appel à prier pour les malades. Mais là, c'était vraiment une parole spécifique pour sa vie. Et puis aussi le fait que Dieu est en train de restaurer tout dans son corps à ce moment-là, quand personne ne savait ce qu'elle avait, c'est une parole vraiment précise pour sa vie. Puis ça l'a béni énormément. Imaginez, là, vous venez de recevoir le diagnostic que vous êtes malade, et là, quelqu'un vient vous dire, Dieu met sa main en ce moment. Et ce que l'homme dit est impossible, Dieu te dit en ce moment que c'est possible. Voyez-vous, elle a reçu cette parole-là qui contenait aussi un verset de la parole de Dieu. Donc ça, c'est une parole extra-biblique, mais c'est là qu'il faut quand même discerner. Il faut discerner ces choses-là. OK, ça, c'est, il y a un verset de la parole de Dieu, c'est certainement vrai. Hein, ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu, mais la partie concernant le ministère de guérison, elle devait trier cette chose-là et ça résonnait dans son cœur, puis elle a accepté aussi. OK, une parole anti-biblique maintenant, bien, c'est une parole qu'on devrait carrément rejeter. Hein, c'est pas trop compliqué. Ça, c'est les paroles les plus faciles à discerner quand on connaît la Bible. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit « Jésus est maudit » en passant. Non, on rejette cette parole. Finalement, c'est Mohamed que tu dois suivre. Non, vous comprenez? C'est-à-dire que tout de suite, c'est facile parce qu'on connaît, si on connaît la vérité, c'est facile à discerner parce que là, ça contredit la parole de Dieu et Dieu ne se contredira jamais. Amen. Donc, une parole anti-biblique, c'est la parole qui contredit la révélation biblique. Elle doit être complètement rejetée. Par exemple, tu dois divorcer ton épouse pour rentrer dans ton appel. Non, je m'excuse, Dieu ne me dira jamais de faire une chose pareille. Amen? OK. Donc, ça, c'est des choses qu'on veut voir. toujours dans la section « Comment interpréter les paroles que nous recevons », voici les lignes directrices pour l'interprétation des paroles prophétiques. Comment interpréter les paroles prophétiques? Premièrement, on va revoir le texte qu'on a vu dans 1 Corinthiens 14, verset 3. OK, c'est super important. 1 Corinthiens 14, verset 3 nous dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Nous sommes des frères et des sœurs de la Nouvelle Alliance. Nous sommes appelés à bénir autour de nous. On déclare des paroles de vie et non des paroles de mort. » Donc, le texte que je viens de vous lire, c'est 1 Corinthiens 14, verset 3. « Celui qui prophétise, parle aux hommes, les édifie. » Donc, on les bâtit, on bâtit les gens avec nos paroles. On les exhorte vers le haut, c'est pas vers le bas. Et on les console avec nos paroles. Donc, pour y arriver, par exemple, comment y arriver? Faut être sensible au Saint-Esprit. Vivez connecté, demeurez en communion constante avec l'Esprit de Dieu, comme on est exhorté à faire dans 2 Corinthiens 13:13. Recherchant toujours à lui consacrer de plus en plus d'attention. Donc, vous êtes dans votre journée au travail, vous êtes à l'épicerie, dans le magasin. Demeurez toujours connecté avec l'Esprit de Dieu qui vous habite. L'Esprit est en vous, mais soyez conscient, même si vous êtes tout seul à l'épicerie, soyez conscient que l'Esprit de Dieu est en vous. Soyez conscient que l'Esprit de Dieu va peut-être vous appeler à faire quelque chose dans le magasin. Soyez conscient de ça. L'Esprit de Dieu est en moi, avec moi, et je suis les mains du Seigneur Jésus dans cette place. Peut-être vous êtes le seul chrétien dans cette place-là. Donc, ça se peut fort bien que Dieu va vous montrer une personne dans le besoin. Donc, c'est une chose qu'on veut faire, être sensible constamment à l'Esprit de Dieu. Là, quand vous recevez une parole prophétique, consultez le Seigneur pour avoir son avis. Comme ce soir, si vous recevez une parole de quelqu'un, consultez le Seigneur pour avoir son avis. Souvent, les gens se posent des questions ou ils vont interpréter par leur tête. Or, est-ce que ça peut être vrai, ça? Là, on va penser, on va utiliser les facultés de notre intelligence, mais l'Esprit de Dieu est disponible pour vous. C'est une chose importante. L'Esprit de Dieu va vous le dire. Vous pouvez poser la question, « Seigneur, que dois-je faire avec cette parole? Quelle est ton interprétation? » Des fois, on reçoit une parole et là où on fait fausse route, c'est avec notre interprétation. Quelqu'un vous donne une parole, par exemple, vous la recevez, mais vous l'interprétez mal. Ou quelqu'un vous donne une parole et en plus la personne vous donne l'interprétation et eux aussi peuvent se tromper en vous donnant l'interprétation. C'est là où on fait beaucoup d'erreurs. Dieu donne une parole. OK? Dieu vous donne une parole. Donc, demandez au Seigneur le sens de cette parole-là. Ça, c'est super important. Donc, je reçois une parole, puis là, au lieu d'utiliser ma tête pour dire « Ah, ça doit vouloir dire ça », puis là, j'essaie de réfléchir pour essayer de deviner ce que Dieu voulait dire. Mais si Dieu vous donne une parole, ça vient d'une façon spontanée, comme j'ai déjà expliqué, c'est pas quelque chose qui va venir de votre tête, ça va venir dans votre esprit. L'Esprit de Dieu va vous parler. Et là, Dieu connaît déjà l'interprétation du message qu'il veut vous donner, n'est-ce pas? Si Dieu vous parle, si Dieu vous donne une parole, c'est parce qu'il sait ce qu'il veut vous dire. Donc, demandez à l'Esprit de Dieu, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? » Et l'Esprit de Dieu va vous le dire dans votre esprit. OK, ça, c'est super important. Parce qu'on peut, souvent là où on a un problème, on reçoit une parole et là, on commence à l'interpréter, mais avec notre tête. Et où la personne reçoit la parole, OK, elle l'entend, vous prononcez une parole, mais là, elle commence à raisonner elle aussi, puis finalement, l'interprétation est faussée, puis vous ne recevez pas vraiment la bénédiction que Dieu avait prévue. Donc, c'est ça. Faites appel à l'Esprit de Dieu quand vous recevez les choses surnaturelles comme ça. Ne forcez pas votre interprétation lorsque vous êtes incertain, mais recevez de l'Esprit Saint son interprétation. Vous dites peut-être, ah, ben ça, c'est beaucoup plus facile le dire que de le faire, mais en réalité, c'est possible. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous. Il faut juste commencer à développer l'audition spirituelle. Et Dieu va vous le montrer. Faites appel aussi à des conseils spirituels et matures. Donc, si vous recevez une parole, OK, vous avez reçu une parole, puis dans votre esprit, vous ressentez vraiment que c'est de Dieu, mais vous êtes incertain, bien, parlez avec quelqu'un de mature dans le Seigneur. Vous pouvez parler avec un frère ou une sœur que vous savez, ça fait des années qu'il marche avec Dieu. Ou aussi, vous pouvez parler avec un pasteur, quelqu'un de l'équipe pastorale, quelqu'un qui est mature dans le Seigneur, quelqu'un en qui vous avez confiance. Parce que dans Proverbes 11, verset 14, nous lisons « Le salut est dans le grand nombre des conseillers » ou dans Proverbes 15, verset 22, « Quand on ne consulte personne, les projets échouent, mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. » Ici, on voit juste deux versets qui nous parlent, qui soulignent l'importance d'avoir des conseillers, tout simplement. On n'est pas tout seul, on est dans le corps de Christ, puis il y a des frères et des sœurs qui peuvent être là pour nous aider, tout simplement. Vous recevez une parole, et puis avant d'agir ou quoi que ce soit, comprenez que l'Esprit de Dieu est en vous, l'Esprit va vous diriger, mais des fois, vous pouvez avoir votre frère ou votre sœur, ces gens-là qui vont vous aider pour vous aider à discerner la voix de Dieu. OK. Maintenant, jugez les paroles que vous recevez. Dieu vous appelle. Une des choses, dans les responsabilités qu'on a, on parle ce soir des responsabilités, en gros, comment discerner les paroles prophétiques que nous recevons. Comprenez premièrement que vous êtes appelés à juger les paroles prophétiques. Jugez les paroles que vous recevez. Et est-ce qu'on a le droit de le faire? Certainement. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21, on l'a déjà lu, on va le relire. On a lu « N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer, ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Si on peut retenir ce qui est bon, ça veut dire qu'on va laisser passer les choses qui sont mauvaises, n'est-ce pas? Donc, on retient ce qui est bon, puis les choses qu'on dit « Ah, ça ne m'a pas vraiment béni », ça ne veut pas dire que c'est satanique, hein? Mais c'est juste comme peut-être ça venait de la chair, la personne a dit quelque chose qui venait de sa tête, puis ça ne veut rien dire pour vous. Vous laissez ça passer, mais vous retenez ce qui est bon. Bon, là, je vais vous poser plein de questions que vous pouvez vous poser quand vous recevez une parole prophétique. Ça va vous aider. OK. Est-ce que la parole prophétique est conforme aux Saintes Écritures? La première chose qu'on devrait faire quand on reçoit une parole prophétique, est-ce que c'est biblique l'affaire? Parce que ça, c'est le critère numéro un. Quand je reçois une parole, la parole doit être en accord avec la parole de Dieu. Amen? OK. Attention, est-ce possible que votre compréhension des Écritures est fautive, par exemple? C'est ça l'affaire où on a des fois un problème. Même, en fait, on peut aller dans Actes 10 et on pourrait aller au verset 9 à 14. On ne lira pas tout, je pense, je vais juste vous donner la référence, mais vous connaissez la vision de Pierre. Pierre qui a eu la vision de la grande nappe qui est descendue du ciel, où Dieu lui dit « Tue et mange ». Et puis Pierre, il dit « Ben non, j'ai jamais rien mangé d'impur comme ça ». Et puis là, vous voyez, il recevait quelque chose de surnaturel ici. Dieu lui montrait une vision, il a reçu une parole ici où il devait agir, mais sa compréhension des Écritures était un peu à côté. Parce que là, Dieu est en train de lui dire quelque chose, puis il était limité dans sa compréhension biblique à ce niveau-là. Ça se peut des fois, quand vous recevez une parole, et si votre réaction c'est « Ah, non, ça c'est anti-biblique », ça se peut que c'est anti-biblique, mais ça se peut aussi peut-être que vous comprenez mal la Bible à certains niveaux. C'est-à-dire que des fois, faites attention, on ne veut pas être arrogant et rejeter rapidement les choses, parce que des fois, l'Esprit de Dieu va utiliser une parole, puis vous allez apprendre des choses aussi. Est-ce que c'est possible, ça? Ça, c'est un point important. Des fois, on est là, et puis il y a des gens qui ont entendu une parole, admettons, une parole prophétique a été donnée dans une assemblée, et là, il y a des gens, « Oh, ça, c'était pas de Dieu, parce que la Bible dit ça. » Puis des fois, la réaction, c'est que, en fait, ta compréhension de ce verset-là est à côté. C'est toi qui as besoin de changer. OK? Ça, c'est une des choses. Faisons attention, à ce niveau-là, être sensible à l'Esprit de Dieu. Bon, dans ce même texte-là, dans Actes 10, 9 à 14, que vous pourrez lire à la maison si vous ne connaissez pas le texte, mais on a vu ici, au verset 28, dans Actes 10, 28, Pierre a dit, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un homme étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Donc, quand il y a eu cette vision-là, il a compris une chose. Il a dit, « Dieu m'a appris. » Dieu m'a appris quoi? Elle ne regardait aucun homme comme souillé et impur. Donc, Pierre a dû apprendre des choses. Et nous aussi, on a besoin d'apprendre des choses. Donc, on peut dire, oui, certainement, les choses doivent être bibliques, mais on doit faire attention également pour ne pas s'imaginer tout connaître et des fois ne jamais être prêt à se remettre en question. Peut-être, des fois, on a besoin de se remettre en question sur certains points, tout simplement. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? OK? Mais certainement, la Bible est l'autorité. Et puis, mais je suis juste en train de donner ici une nuance. On doit faire attention parce que des fois, on suppose qu'on connaît toutes choses. Et je crois qu'on passe à côté des fois à cause de ça. Ou il y a du moins, il y a des gens qui passent à côté. Comme une fois, je me souviens, j'avais passé du temps avec une sœur après une réunion d'église. J'étais pas dans une église à ce moment-là comme aujourd'hui. Puis je racontais à cette sœur des témoignages comment Dieu m'avait parlé dans ma vie. Puis j'étais vraiment sincère et je croyais que la femme qui m'écoutait, je croyais qu'elle croyait dans le surnaturel et qu'elle croyait aussi que Dieu pouvait nous parler aujourd'hui. Puis je suis là avec elle, je raconte ce que Dieu m'avait montré. Puis elle m'écoute. Puis à la fin de mon témoignage, elle dit, « Tu crois vraiment que Dieu parle aujourd'hui? » Sauf que là, j'étais comme, « OK, OK, elle croit même pas que Dieu peut nous parler. Sauf que là, j'avais l'air d'un, vraiment d'un un spécial. On va dire ça comme ça. T'es comme, ah, tu crois que Dieu nous parle aujourd'hui? J'ai dit, OK, là, j'ai compris. Mais elle, elle aurait pu dire, ah, ben cette chose-là est à côté parce que Dieu ne parle plus aujourd'hui. Mais voyez-vous, elle aurait pu prendre un texte en parole de Dieu qu'on ne prendra pas, mais que les cessationnistes vont prendre pour dire, ben Dieu ne parle plus aujourd'hui, c'est fini, c'est avec le temps des apôtres. Et puis, sa compréhension des Écritures était à côté, n'était pas sur la piste. OK? Donc, c'est une des choses qu'on veut juste faire attention. On ne connaît pas toutes choses. Puis des fois, si une parole que vous avez reçue, bien, l'Esprit de Dieu va vous le dire aussi. L'Esprit de Dieu va vous donner soit la paix ou l'absence de la paix quand vous recevez une parole. Mais on doit faire attention de ne pas s'imaginer qu'on connaît toutes choses, qu'on n'a rien à apprendre. OK, on va ouvrir une parenthèse importante maintenant concernant aussi l'utilisation des illustrations prophétiques. Ça, c'est une chose aussi qu'on veut faire ce soir. J'ai invité notre sœur Martine Blanchette. Elle va venir vous lire un texte dans Ézéchiel 4. Si on veut vivre le surnaturel, on veut marcher dans la grâce envers ceux qui vont nous donner des paroles prophétiques, parce qu'aussi, on a besoin d'avoir la grâce de Dieu. Amen. Parce que des fois, on va prendre un pas de foi, on va dire ce qu'on reçoit dans notre cœur, ce qu'on croit entendre de Dieu. Puis si on se trompe, on peut passer à côté. Si on se trompe, par contre, on a des frères et des sœurs gracieux qui vont être là pour nous encourager, puis ils ne vont pas nous crucifier, comme j'ai déjà dit. Tout ça pour vous dire, on est en train de voir comment on peut juger les paroles prophétiques qu'on reçoit. On doit les juger avec discernement selon la parole de Dieu. Mais aussi, il faut comprendre, Dieu va nous parler d'une façon biblique, mais Dieu peut aussi utiliser des illustrations. Et quand on lit l'Ancien Testament, on voit que notre Dieu est un Dieu artistique, de certaine façon. Et je pense que Martine est la personne parfaite pour vous lire ce texte-là. On va lire ensemble. Venez avec moi dans Ézéchiel chapitre 4. Martine va lire à partir de la version Bible du Semeur pour que ça soit plus facile pour nous. Mais ici, j'aimerais vous inviter à aller voir dans Ézéchiel chapitre 4. Essayez de voir les objets qui sont dans le texte, parce que Dieu se sert des objets pour nous communiquer des vérités, et puis il se sert également d'illustrations pour illustrer le prophétique, pour nous démontrer le prophétique. Oui, c'est des mises en scène que le Seigneur est en train de faire dans ce texte-là. Donc, la raison pourquoi je vous dis ça, parce que ce dimanche aussi, je sais à l'avance que le frère Jeremy Nelson, qui s'en vient prêcher à l'église, va vous parler de quelque chose qu'il m'a déjà mentionné. Et si vous ne comprenez pas que Dieu peut parler par des illustrations prophétiques, vous faites là et dites, c'est quoi cette affaire-là? Écoutez, j'essaie de vous dire, parce que des fois, on peut être trop vite au jugement. On peut passer à côté des choses que Dieu en réserve si on est trop vite à juger. C'est biblique, parce qu'on va même le voir ensemble ce soir, que Dieu va se servir des illustrations.
Amen. Et maintenant, fils d'homme, prends une brique, pose-la devant toi et grave dessus le dessin d'une ville, Jérusalem. Ensuite, tu mettras le siège devant elle. Tu construiras contre elle des terrassements, tu élèveras contre elle des terrasses de siège, tu construiras des campements en face d'elle et tu disposeras tout autour d'elle des machines de guerre. Puis, tu prendras une plaque de fer, tu la disposeras comme un mur de fer entre toi et la ville, et tu tourneras ta face contre elle. La ville sera en état de siège, et c'est toi qui la siégeras. Tout cela devra servir de signe à la communauté d'Israël. Couche-toi ensuite sur ton côté gauche. Étant sur ce côté, tu prendras sur toi le péché de la communauté d'Israël. Tu porteras leur péché autant de jours que tu seras couché sur ce côté-là. Je te fixe moi-même un nombre de jours équivalent au nombre d'années durant lesquelles le royaume d'Israël a péché, c'est-à-dire 390 jours. Ainsi, tu porteras le péché de la communauté d'Israël. Après la fin de cette période, tu te coucheras cette fois sur le côté droit et tu porteras le péché du royaume de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année où il a péché. Tu tourneras ta face et ton bras nu contre Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Je vais te lier avec des cordes, pour que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies achevé ta période de siège. Et maintenant, prends du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre, mets le tout dans un même récipient et fais-en ta nourriture. C'est là ce que tu mangeras tout au long des 390 jours où tu seras couché sur le côté. Ta ration journalière de nourriture sera de 220 grammes et tu en consommeras de temps en temps. L'eau te sera mesurée à 1 litre par jour. Tu en boiras de temps en temps. Tu prendras ta nourriture sous forme de galettes d'orge que tu cuiras devant tout le monde sur un feu alimenté avec des excréments humains. Et l'Éternel ajouta : C'est ainsi que les Israélites mangeront leur pain impur au milieu des nations où je les chasserai. Je m'écriai : Ah, Seigneur Éternel, depuis mon enfance jusqu'à ce jour, je ne me suis jamais souillé en mangeant d'une bête crevée ou déchirée par un fauve. Et aucune viande impure n'a pénétré dans ma bouche. Alors l'Éternel me dit, « Je te concède de remplacer les excréments humains par de la bouse de vache pour faire cuire ta nourriture. » Il me dit encore, « Fils d'homme, je vais supprimer toute réserve de pain dans Jérusalem. Ses habitants mangeront dans l'angoisse du pain strictement rationné, et ils boiront dans la détresse de l'eau en quantité mesurée. Ils manqueront de pain et d'eau. Ils seront tous ensemble épouvantés et ils dépériront à cause de leurs péchés. »
Merci, Martine. Elle lit bien, Martine. Super. Oui, on peut l'applaudir. Super. OK, ce qu'on a vu là, on peut dire « wow ». Bon, on voit l'annonce de la fin de Jérusalem et de Juda. Ici, c'est un texte prophétique du prophète Ézéchiel, ce qu'il recevait de Dieu. Et imaginez, dans ma Bible, j'ai écrit, pour Israël, 390 jours couchés d'un côté, et pour Juda, 40 jours. Ça doit être longtemps, j'imagine. Imaginez. Avez-vous déjà lu ce texte-là et vraiment réfléchi au texte? Moi, je me suis mis à la place d'Ézéchiel, si Dieu m'avait appelé un prophète comme Ézéchiel, couché 390 jours d'un côté, puis 40 jours de l'autre côté. Hey, c'est long. Qu'est-ce que j'ai dit? Attaché en plus, là. Wow, ça, c'est le fun encore. C'est encore plus fun. Et son menu, pas trop diversifié. Et la façon qu'on cuisinait le tout, encore moins. Hein? C'était pas trop intéressant. Bon, on dit, mais pourquoi Dieu a fait ça? Dieu est Dieu. Hein? Dieu est Dieu. Et puis, Dieu a choisi de se manifester en utilisant des objets comme ça, des illustrations, des mises en scène pour illustrer une vérité. Bon, ça fait que ça, c'est une chose qu'on doit comprendre aussi. Si jamais on vit quelque chose à l'Église, si jamais il y a quelqu'un qui fait un geste prophétique, des fois, il faut voir, peut-être Dieu a un but là-dedans. Peut-être on est censé voir une chose pour comprendre une vérité. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Là, on va aller dans le Nouveau, dans Acte 21, versets 10 à 11. Donc, on va être plus gracieux dans nos interprétations. C'est ça qu'on veut voir en ce moment. Parce que des fois, on est trop vite, on est trop rapide à juger et dire, « Oh, ça ne peut pas être de Dieu, ça. » Imaginez si vous étiez dans ce temps-là, là, et puis Ézéchiel est couché 390 jours. Peut-être qu'il y avait des gens qui disaient, « Hey, regarde, c'est pas de Dieu cette affaire-là, voyons. » Mais quand on lit la Bible, on pourrait dire bien des choses qui n'étaient pas de Dieu, parce qu'on dirait, « Ben, ça ne fait pas de sens. » Mais notre Dieu, des fois, il ne travaille pas selon la logique humaine. En tout cas, c'est ça que moi, je trouve. Êtes-vous d'accord? OK, Acte 21, verset 10 à 11, dans la Bible du Sommeur. Nous étions déjà là depuis plusieurs jours lorsqu'arriva de Judée un homme appelé Agabus, un prophète ici, qui avait ce même don. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit-Saint, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des païens. Donc ici, Agabus le prophète prend la ceinture de Paul et puis s'attache les mains et les pieds pour déclarer une parole prophétique. Donc il vient illustrer le message prophétique avec la ceinture de Paul. Vous suivez? Là, au verset 31 du même chapitre, dans la Bible du Sommeur, nous disons, on cherchait à le mettre à mort, en parlant de Paul. Là, on voit ici, est-ce que ça s'est réalisé, cette parole-là? On cherchait à le mettre à mort quand le commandement, quand le commandant de la, gar, garnison romaine fut informé que tout Jérusalem était en effervescence, aussitôt il rassembla des soldats avec leurs officiers et se précipita vers la foule. Dès qu'on aperçut le commandant et les soldats, on cessa de battre Paul. Alors, le commandant s'approcha, fit saisir Paul et donna ordre de le lier avec une double chaîne, puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Donc, on voit ici la parole que Paul serait lié, ça s'est réalisé, et puis il y a eu la parole prophétique par Agabus avant. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer comment Dieu peut utiliser des objets ou des mises en situation pour illustrer une vérité. OK, on poursuit toujours dans la section « Comment juger les paroles qu'on reçoit ». Donc, une des choses qu'on a vues, est-ce que c'est biblique? C'est facile, j'aurais pu juste dire « Est-ce que c'est biblique, oui ou non? » Mais là, on a juste fait un petit peu de nuance pour voir, OK, des fois, on est là, on s'imagine que c'est pas biblique parce qu'on est trop vite à juger. Donc, on veut juste comprendre ici, peut-être on comprend pas très bien la parole à certains niveaux ou peut-être Dieu veut illustrer aussi des choses d'une certaine façon. Donc, vous me suivez tous? OK. Est-ce que la parole prophétique est en harmonie avec les conseils spirituels que vous avez déjà reçus? Donc, si vous avez reçu déjà des paroles dans votre vie, vous les avez reçues, est-ce que la nouvelle parole que vous venez de recevoir, est-ce que cette parole-là est en harmonie avec les paroles que vous avez déjà reçues? Par exemple, dans mon cas, je peux vous parler de moi-même parce que je me connais bien. Hein? Ben, moi, j'ai reçu des paroles, c'était constamment concernant la francophonie. Mais si quelqu'un arrivait avec une parole sur la Chine, puis là, oh, mais toi, je te vois en Chine, puis tu parles le chinois, puis là, je pourrais dire, OK, je vais peut-être la mettre sur la tablette, celle-là, parce qu'il n'y a rien dans mon esprit qui me dit c'est de Dieu. Je me suis jamais vu en train de prêcher au chinois, et puis j'ai jamais eu de parole comme ça. C'est une parole totalement nouvelle, différente. Est-ce que je devrais la rejeter immédiatement? Non, parce que peut-être Dieu me dirait, ben là, une première partie de ta vie, c'était pour la francophonie, et puis aussi, je veux rajouter la Chine. Comprenez? Donc, mais faites attention, parce que s'il y a quelque chose, ça semble vraiment changer votre orientation dans les choses que Dieu vous appelait à faire. Si, admettons, quelqu'un venait là, à notre église puis me disait, écoute, oublie la francophonie, Dieu veut pas du tout, Dieu a oublié la francophonie, là, puis c'est pas important, regarde là, c'est pas important, Dieu a d'autres mondes qui aiment mieux. OK, déjà là, ça serait très facile, c'est anti-biblique de un, mais admettons, quelqu'un arrivait avec une parole comme ça, je serais, non, c'est pas de Dieu. Quelqu'un m'a dit, en essayant de me flatter, ce sens du poil, connaissez l'expression, « Ah, t'es pas vraiment un pasteur, toi. Toi, t'es ceci, cela. » Vous me donnez un titre qui, selon la personne, m'exaltait. Puis là, ma femme, tout de suite, elle a répliqué. Elle dit « Non. » Puis moi aussi. Elle dit « Non, mon mari, il a vraiment un cœur pastoral. » Elle dit « Je m'excuse, mais on a rejeté la parole sans être méchant, là. » Mais la personne voulait nous flatter sans du poil, pensant qu'on serait plus impressionné avec un autre titre. C'est pas les titres qu'on recherche, mais on sait qui nous sommes. Je sais je suis un pasteur, je sais je suis pas autre chose. Ça fait que là, la personne disait ça, mais là, on peut discerner, non, je sais dans mon cœur qui je suis aussi. OK? Donc, les paroles prophétiques doivent être en harmonie avec les conseils qu'on a déjà reçus, avec les paroles qu'on a déjà reçues. Est-ce que cette parole prophétique contient le cœur de Dieu pour moi? Ça, c'est une autre chose. Est-ce que c'est le cœur de Dieu pour ma vie? Ça, c'est une autre chose que vous pouvez vous poser comme question. Est-ce que mon esprit est en paix lors de la livraison de la parole prophétique? Ou est-ce que je ressens la peur ou un inconfort spirituel? Ça, ce n'est pas une bonne chose. Si vous ressentez la peur quand vous recevez une parole prophétique, ce n'est vraiment pas un bon signe. Parce qu'une parole qui vient de Dieu, c'est votre Père céleste qui vous parle. Et notre Père céleste nous aime avec un amour éternel. Quand Dieu nous parle, ça nous fait du bien. Ça ne nous fait pas mal, ça ne nous fait pas peur. OK. Rappelez-vous, dans Romains 8,15, ça nous dit qu'on n'a pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, notre Dieu nous parle, et puis c'est une belle voix qui nous donne la paix. Dieu ne vient pas nous donner des paroles pour nous effrayer. Est-ce que la parole prophétique est conforme aux révélations que vous avez déjà reçues? Et puis, rappelez-vous, dans Romains 8,14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça, c'est une chose super importante pour nous. C'est un verset qu'on a relu pratiquement peut-être chaque soir, mais que l'Esprit de Dieu va diriger l'enfant de Dieu. Donc, les paroles prophétiques ne sont jamais là pour vous diriger dans votre vie. Les paroles prophétiques peuvent venir pour venir confirmer, clarifier des choses, mais la parole prophétique n'est pas là pour vous donner la direction pour vos vies, pour vous orienter. Et il y a des gens, des fois, qui vont toujours voir une personne qui croit être un prophète parce qu'ils se disent, la personne va me dire ce que Dieu veut pour ma vie. Ça, c'est vraiment une pensée de l'Ancien Testament. On n'est plus dans l'Ancien Testament, on n'est plus dans l'Ancienne Alliance. On ne devrait pas aller vers les prophètes pour savoir ce que Dieu nous dit. On devrait aller vers Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Parce que c'est comme ça que Dieu parle. On a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vous habite et l'Esprit de Dieu va vous parler parce que vous êtes dirigé par l'Esprit de Dieu. Ça fait du sens? OK? Mais, ceci dit, est-ce que Dieu a établi des prophètes dans le corps de Christ? Oui, c'est écrit Éphésiens 4, 11, 12, par exemple. Donc, il y a des prophètes qui sont là, mais leur mandat, ce n'est pas de vous diriger. L'Esprit de Dieu a ce mandat-là, vous diriger. Amen. Est-ce que la parole prophétique me donne une nouvelle direction pour ma vie? Est-ce que cette parole prophétique est une confirmation personnelle? Toutes des bonnes choses qu'on peut se poser comme question. Si vous recevez une parole prophétique d'une personne qui semble vous donner une direction, n'agissez pas avec présomption ou avec précipitation. Une parole prophétique amène souvent une confirmation ou une clarification de ce que vous avez déjà dans votre esprit. Donc, on peut se poser la question aussi, quand je reçois cette parole-là, est-ce que cette parole me condamne ou est-ce qu'elle me bâtit? Une parole qui vient de Dieu devrait vous bâtir, pas vous détruire, pas vous condamner. Mais la parole va venir clarifier des choses ou confirmer des choses. Par exemple, quand je recevais des paroles à l'époque pour le peuple francophone, à chaque fois qu'on avait des prophètes qui venaient à l'antenne de TV puis nous donnaient des paroles concernant le peuple francophone, chaque fois, ça venait confirmé. C'était toujours quelque chose qui nous bénissait parce qu'on savait que c'est vraiment ça. Mais si quelqu'un arrivait avec une parole totalement différente, bien là, d'un, ça ne viendrait pas confirmer, mais on pourrait la mettre sur la tablette parce qu'on pourrait dire, bien peut-être Dieu a d'autres choses en réserve. Et si cette autre chose-là, mettons quelqu'un arrive puis me parle de la francophonie, mais aussi les Russes, admettons, dans mon cas. Admettons, Dieu veut faire quelque chose dans la Russie avec toi. OK, première fois de ma vie, je reçois ça. Est-ce que je vais la rejeter, la mettre dans les poubelles tout de suite? Non, parce que si Dieu veut me parler, des fois, on n'est pas assez à l'écoute. Typiquement, la façon que Dieu va nous parler, il va nous parler dans notre esprit. Et là, quelqu'un peut arriver avec la clarification ou la confirmation plutôt. Et là, c'est bénissant parce qu'on l'avait dans notre cœur. Donc, ça vient confirmer. Mais admettons que vous n'êtes pas trop à l'écoute de Dieu. Puis Dieu prend quelqu'un pour venir vous donner une révélation. Et ça se peut aussi que là, vous allez entendre deuxième, troisième, quatrième confirmation de la même parole qui était maintenant dans votre cœur. Mais des fois, la première fois, ce n'est pas parce que vous n'avez jamais entendu cette chose-là. La première fois, ça ne veut pas toujours dire que ça va confirmer quelque chose. C'est ça que je suis en train de dire. Des fois, peut-être vous êtes là, « Ah, je n'avais jamais pensé à ça. » Puis ça vient vraiment de Dieu. Peut-être Dieu voulait vous le dire, mais vous écoutiez trop de TV. Comprenez? Ça se peut. Écoutez, c'est vrai, c'est la réalité. Des fois, on n'est pas assez consacré, mais Dieu nous fait grâce. On est dans une réunion, puis quelqu'un vient nous donner une parole. Et puis là, dans notre esprit, ça vient vraiment comme, « Je ressens vraiment, c'est de Dieu. » Pourtant, ça ne confirme rien. Mais c'est une chose, « OK, je reçois ça. » Mais si c'est de Dieu, Dieu va se répéter. Dieu va confirmer. C'est comme nous avec nos enfants. Quand nos enfants ne font pas leur chambre, on dit « Hey, je t'ai dit, va faire ta chambre. Va ramasser ta chambre. » Ils ne font pas. « Hey, je t'ai dit, va ramasser ta chambre. » Troisième fois, « Hey, va ramasser ta chambre. » On le fait, nous. Dieu va faire la même chose. Donc, on ne fait rien par précipitation. On attend que l'Esprit de Dieu nous confirme les choses. Mais on ne doit pas rejeter une parole la première fois parce qu'on dit ça ne confirme rien. Ça se peut que Dieu va nous donner des choses aussi qu'on n'avait pas entendues avant, parce que des fois, on n'entend pas parce qu'on n'est pas assez à l'écoute. Ça fait du sens? OK. Est-ce que la personne qui prophétise essaie de me contrôler ou de me manipuler? Ça, c'est vraiment dangereux. Et c'est là où il y a eu beaucoup d'abus dans le corps de Christ avec les dons spirituels. Et c'est pour ça que plusieurs églises ont refusé les paroles prophétiques, le ministère des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, parce que des gens qui ont mal utilisé ce don-là. C'est rare qu'on voit l'abus du ministère du don des miracles, par exemple, ou l'abus du ministère des guérisons. Hein, les dons des guérisons, mais c'est merveilleux, mais on n'en voit pas beaucoup d'abus. Peut-être, là, 100 ans, il y avait des... Peut-être encore aujourd'hui, puis je ne suis pas au courant, mais des charlatans, là, des gens qui font semblant d'être... malades, puis là, sont guéris d'un seul coup, puis c'est artificiel, puis c'était toute une chose montée. Il y en a eu de l'abus là-dedans. Mais je crois que c'est beaucoup moins. Mais avec une parole prophétique, ça, c'est vraiment facile en faire de l'abus. N'est-ce pas? C'est plus facile parler que de faire un montage de quelqu'un qui est guéri quand la personne n'était jamais malade. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abus au niveau des paroles prophétiques. Donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de chrétiens qui sont plus fermés à l'idée. Je veux rien savoir parce qu'il y a eu de l'abus. Bon, mais comme on a déjà dit, c'est pas parce que quelque chose a été abusé que c'est faux. Non, il y a du vrai. Il faut juste savoir discerner les choses. Et ce soir, c'est ça qu'on est en train de faire. Comment on peut discerner? Si quelqu'un veut vous contrôler ou vous manipuler, déjà la personne n'a pas compris que Romains 8, 14 existe, qui nous dit qu'on est dirigé par les enfants de Dieu. On n'est pas dirigé par un prophète. Donc, quelqu'un qui vous contrôle, qui essaie de vous manipuler. « Ah, Dieu me montre, là, si tu ne m'écoutes pas, si tu n'écoutes pas ma parole, tu vas perdre ta maison, tu vas perdre tes autos, tu vas perdre tes enfants. » Ça, c'est de la manipulation, n'est-ce pas? Et je connais un couple qui ont entendu une parole comme ça, qui croyaient la parole, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs deux autos. Pourquoi? Parce que le prophète avait dit, si tu ne fais pas ceci, tu désobéis, c'est ça qui va t'arriver. Et puis, ils ont reçu la parole, qui est une parole de malédiction, ils ont tout perdu. Ça, c'était de l'abus du ministère prophétique. OK. Est-ce que cette parole prophétique est confirmée par les gens qui sont près de moi? OK, admettons que vous avez reçu une parole prophétique. La première fois que vous la recevez, ça confirme absolument rien en vous. Mais là, vous dites, hey, mais ça, là, ça, je trouverais ça le fun, là. J'ai connu une histoire, en tout cas l'histoire d'un frère. C'était pas son don de prêcher, mais il croyait vraiment, et je crois qu'il avait reçu une parole. Sauf que là, il va vivre une formation théologique, tout ça. Mais s'imagine qu'il va être un pasteur, mais pourtant, quand il parle, les gens dorment. C'est le type d'enseignant. C'est le résultat, il a le don d'endormir les gens. Sauf que là, mais lui, il se lance par la foi parce qu'il se dit, ben quelqu'un m'a donné la prophétie que je vais être le prochain Billy Graham, par exemple. Sauf que là, mais il n'y a personne dans sa famille qui confirme la chose. Dans ses amis, rien. Il a reçu une parole, il bâtit toute sa vie sur une parole. Si Dieu nous appelle à faire quelque chose, il va confirmer la parole. C'est ça, une chose importante. Il va confirmer. Et oui, on va savoir dans notre cœur, c'est la vérité. Mais là, admettons, vous avez reçu une parole et puis vous en parlez avec votre pasteur ou quelqu'un dans l'équipe pastorale ou un frère, une soeur, puis vous dites, c'est ça que j'ai reçu. Puis là, les gens qui vont vous aimer vraiment, ils vont vous dire la vérité. Ils vont vous dire la vérité et vous allez vous épargner des problèmes et toutes sortes de douleurs. Parce que c'est triste quand on fait des choses, on s'imagine des choses, puis il n'y a personne autour de nous qui peut affirmer que la chose est vraiment de Dieu. Parce que vous savez, Dieu nous donne des bons conseils aussi. On n'est pas tout seul dans le monde. Donc, est-ce que la parole prophétique est confirmée par les gens qui sont près de moi? Si, admettons, ça se peut aussi que vous êtes entouré d'incrédules, ça se peut fort bien. Si vous avez reçu une parole 3-4 fois, c'est la même chose des ministères prophétiques, ils ne vous connaissent même pas, ils vous disent c'est ça que Dieu a en réserve pour vous, puis vous le dites à votre famille, puis tout le monde n'y croit rien. Ça se peut aussi que vous êtes entouré de gens incrédules. Vous devez aussi discerner les gens qui vous parlent. Amen? C'est ça, c'est pas juste discerner la parole, il faut discerner à qui on dit la parole. Mais si vous croyez dans ces gens-là, par exemple, vous croyez qu'ils ont du discernement et vous leur partagez des choses, puis ils ne sont vraiment pas en accord avec vous, ils vous aiment assez pour dire la vérité, prenez en considération ce que vos amis et vos proches vous disent. Amen. OK. Est-ce que la parole prophétique produira de bons fruits dans ma vie? OK, des paroles de malédiction, est-ce que ça va produire des bons fruits? Non. Donc, on va les rejeter. Est-ce que je dois simplement discerner la saison de l'accomplissement prophétique? Peut-être la parole est vraie, est vraiment de Dieu, mais ce n'est pas la saison encore. Attendons la bonne saison avant d'agir. OK. Là, on a fait une bonne partie, juger les paroles que vous recevez. Maintenant, vous ne dormez pas encore? OK. Comment gérer des paroles inexactes? Je n'ai pas dit des fausses prophéties, mais des paroles inexactes. OK? Parce que vous allez en recevoir. Quelle devra être notre réaction? Quelqu'un vous donne une parole. Admettons, mon frère Patrick me donne une parole, puis là, une partie qui est vraie, mais une partie est vraiment dans le champ, là, dans le champ de patates, là. Puis il dit, je vois vraiment, tu vas ouvrir une cantine, tu vas vendre beaucoup de poutine, tu vas mettre beaucoup de sauce, parce que toi, tu vas mettre extra sauce dans tes poutines, là, tu vas faire beaucoup d'argent, puis c'est ça que je vois sur ta vie. Là, il me donne ça comme parole, je suis comme, je sais pas trop, qu'est-ce que je fais avec cette parole inexacte? OK? Est-ce que c'est important? Parce que vous allez en recevoir. Là, c'est soit que je déclare « Patrick Whitton est un faux prophète. Prenez vos roches et on le lapide. » Réaction de l'Ancien Testament? OK, non. Comment faire? Qu'est-ce que je fais? Là, Patrick, je viens plus, moi, là, au mercredi soir. C'est vraiment une illustration fictive. Comment gérer des paroles inexactes? Bon, premièrement, dédramatisons l'affaire. OK, il faut dédramatiser. Même l'apôtre Paul s'est trompé. Saviez-vous ça? Venez avec moi dans Actes 27, verset 9 à 10. Actes 27, verset 9 à 10. Même l'apôtre Paul s'est trompé. C'est un être humain comme nous. Actes 27, verset 9 à 10. Actes chapitre 27, verset 9 à 10. Bon, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, là, je vous mets dans le contexte, Paul est dans le bateau, là, ça va vraiment pas bien, il y a une grosse tempête. Et puis là, Paul dit aux autres dans le bateau, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Ça veut dire qu'il va y avoir des pertes là et ce voyage-là ne se fera pas sans péril, mais en plus, on va perdre la cargaison, le navire et nos personnes. Ça veut dire qu'on va tous mourir là. On va tous mourir à l'aide de quelqu'un. Ça ne va pas bien. Là, on va lire au verset 21 du même chapitre, dans la Bible du Sommeur cette fois-ci. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur dit, « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, « Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. » Donc, voyez-vous, on va tous mourir. Et en plus, après, on voit, finalement, non, c'est pas ça. Donc, voyez-vous, même l'apôtre Paul a pu se tromper dans son discours. Donc, ça se peut aussi, vous pouvez vous tromper. On ne lapide pas personne, n'est-ce pas? On fait juste comprendre qu'on est des êtres humains. Il y a une différence entre être dans l'office du prophète et déclarer « Ainsi parle le Seigneur » et entre frères et sœurs dire « Ok, je prie en ce moment et ce que je ressens dans mon esprit pour toi, c'est ça. » Il y a une différence entre ça et quelqu'un qui est dans l'office du prophète qui déclare « En 1975, Jésus va revenir chercher son église. » Et ça n'arrive pas. T'es un faux prophète. OK? Une différence entre ça et « Je ressens dans mon esprit que tu vas vendre des poutines. » Une différence entre ça. Vous comprenez? On fait la part des choses. OK. On se rappelle, on ne veut pas mépriser les prophéties. Et la raison pour laquelle on revient toujours là-dessus, ne méprisez pas les prophéties, c'est parce que la mention du mépris, là, quelque part dans la Bible, c'est une preuve d'une réaction possible et même probable. Parce que le prophétique a été beaucoup méprisé et abusé, donc on peut avoir la réaction très forte et très facile à dire « Ah non, c'est pas de Dieu » ou juste simplement être incroyant ou incrédule plutôt. On peut être incrédule vis-à-vis le prophétique. OK, donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, jugez les paroles que vous recevez et comment gérer ces paroles inexactes. Comprenons premièrement que l'apôtre Paul, même lui, s'est trompé. On continue. Comment gérer une parole prophétique négative maintenant? Donc, on a vu inexact, OK, et pas exactement juste. Donc, la réaction, on fait juste comprendre, OK, on est des êtres humains, c'est pas la fin du monde. Mais là, une parole prophétique négative. Pouvons-nous recevoir des paroles prophétiques négatives aujourd'hui? OK, on va passer quelques temps ici. Ne sous-estimez jamais la puissance des paroles. La première chose, une parole négative, il ne faut jamais sous-estimer la puissance de nos paroles. Comprenez qu'on habite aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. On n'est pas des prophètes de l'Ancien Testament. Et puis, notre rôle est totalement différent. Aujourd'hui, nous sommes appelés à bâtir les gens avec nos paroles. On est censé de déclarer la vie sur les gens, pas déclarer la mort sur les gens. Amen? Donc, c'est une chose super importante. Je vous rappelle, Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Dans notre monde, Il y a des gens, même des chrétiens que je connais, qui croient des paroles qu'ils ont reçues de personnes dans le monde occulte. Par exemple, une femme qui était diseuse de Bonne Aventure, par exemple, a déclaré, admettons, sur la femme, « Toi, tu vas vivre jusqu'à 40 ans, mais après ça, tu vas mourir d'une maladie très, très grave. » OK? La personne, je vous donne ça, c'est une illustration fictive, je change un peu les détails pour cacher l'identité de la personne qui pourrait m'écouter. Mais la femme, admettons, la sœur chrétienne, avant d'être sauvée, a entendu cette parole-là, est allée voir une diseuse de Bonne Aventure, puis elle reçoit cette parole-là, « Tu vas mourir vers l'âge de 40 ans parce que tu vas mourir d'une maladie très, très grave. » Bon, la personne, avant d'être sauvée, croyait que c'était vraiment la vérité, que c'était vrai, là. Elle devient un enfant de Dieu, elle garde encore sa foi dans cette parole-là. Puis elle a encore peur aujourd'hui. Là, elle a 39 ans, puis elle arrive proche de 40 ans, puis elle s'imagine, oh, là, j'ai peur, là, je vais peut-être avoir cette maladie qui va me tuer. Puis, parce que là, pendant des années, elle a cru cette parole de malédiction. Voyez-vous? Vous me suivez? Bon, qu'est-ce qu'on fait avec une parole comme ça? Premièrement, réalisons que le diable ne connaît pas l'avenir. Si le diable connaissait l'avenir, bien, Jésus n'aurait jamais été à la croix. Amen. Parce que là, le diable aurait vu sa défaite. Le diable ne connaît pas l'avenir. Il connaît juste ce qu'il voit aujourd'hui et le passé. Donc, il peut donner des paroles qui pourraient être comme des paroles de connaissance, sauf qu'on sait que ce n'est pas des vraies paroles de connaissance, mais il pourrait donner ce qui pourrait sembler être des paroles de connaissance, des paroles dans les choses présentes ou du passé, mais il ne peut pas donner des paroles de sagesse qui concernent les choses futures parce qu'il ne connaît pas l'avenir. Donc, c'est impossible qu'une femme, dans l'occultisme, prophétise votre avenir. Impossible. Si elle dit « Vous allez mourir à 40 ans d'une maladie très grave », elle vous a simplement lancé un sort, une malédiction. Et c'est seulement vrai si vous y croyez. Si vous y croyez, vous attachez votre foi à cette parole de malédiction, cette parole-là peut s'accomplir dans vos vies parce que vous avez cru le mensonge. Comprenez? Super important. Là. Sauf que là, si la personne continue à croire comme ça, même si c'est sauvé, elle n'a pas fait le ménage, elle continue à croire comme ça, elle risque de mourir à 40 ans parce qu'elle croit cette chose-là. Puis en plus, elle déclare constamment ce qu'elle a comme crainte. Donc, il faut vraiment déraciner ça et dire « J'annule ces paroles-là au nom de Jésus, je vais vivre de longs jours. » C'est ça que la Bible dit. OK? Donc, il ne faut pas sous-estimer les paroles que vous avez reçues dans vos vies. Faites le ménage. Croyons dans les paroles de vie qui viennent de Dieu. Dans Ésaïe 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Et dans le psaume 91, verset 16, ça dit « Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » C'est ça que vous devriez dire sur votre tête, sur ma tête à moi. « Je vais vivre longtemps et en santé. » Je vais vivre longtemps et en santé. C'est ça que Dieu dit et c'est ça que je prophétise sur ma vie. OK? Donc, aussi les paroles de jugement sur l'Ancienne Alliance, on peut lire ça. Je vais lire rapidement pour ne pas prendre pas trop de temps. Je vais juste vous donner les références. Deutéronome 9, 13 à 14. Donc, je répète, Deutéronome 9, 13 à 14. Ici, on voit que Dieu dit à Moïse, « Écoute, je vais détruire le peuple d'Israël. Ils sont tous rebelles aux coups raides. » Et dans Deutéronome 9, versets 25 à 26, ici, on voit que Moïse prie et puis là, il y a un changement. Donc, dans l'Ancienne Alliance, il y avait des paroles de jugement. Mais là, aujourd'hui, quelqu'un vient vous donner une parole de jugement dans la Nouvelle Alliance. Ce que vous pouvez faire, c'est citer 1 Pierre 2, 24, que Christ a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix. Donc, une des choses, on n'a pas à vivre le jugement parce qu'on a été libéré du jugement. Christ a porté le jugement pour nous. Donc, des personnes qui prophétisent, Dieu va vous juger, vous les chrétiens, les ci puis ça, puis là, Dieu va vous envoyer la maladie, puis il va faire ci puis ça dans vos vies. Ça, c'est des paroles de malédiction. Christ a déjà été jugé pour moi, pour mes péchés. Donc, je ne serai pas jugé une deuxième fois pour mes péchés. Par contre, là, il faut comprendre la loi des semences et des récoltes. C'est ça qu'on a simplement besoin de comprendre. Donc, je vous donne juste les versets, par exemple, dans Jean 3, verset 18, concernant le jugement. « Celui qui croit en lui, en Jésus, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Mais sous le sang de Christ, il n'y a pas de jugement. On ne sera pas jugé. On va être évalué, si on veut, pour voir les récompenses qu'on va recevoir. Mais on ne sera pas jugé pour dire « Ah, finalement, tu ne rentres pas au ciel, tu as fait trop de péchés, ça ne marche pas. » Ce n'est pas comme ça que ça marche du tout. Donc, les gens qui prophétisent des jugements sur vos têtes, rejeter ces paroles-là. Ne croyez pas aux paroles de jugement, à moins que vous n'êtes pas sauvé encore, puis là, le jugement est sur vous, là. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne serez pas jugé, vous allez être récompensé. C'est ça que vous devriez entendre, des paroles de bénédiction, pas de malédiction. OK? Comprenons les lois, par exemple. La loi des semences et des récoltes. Galates 6, 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair... Là, on parle que vous soyez chrétien ou non, là, que vous soyez chrétien ou non. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, Dieu peut inspirer une parole négative afin de secourir une personne d'une récolte possible. Je vous illustre le fait ici, là. Je vais vous illustrer une chose que j'ai faite dans le passé. Parce qu'on peut être trop vite, nous les chrétiens, et dire ben, « toute parole négative vient du diable ». Ça, c'est pas vrai. On peut donner une parole, même si on dit une parole qui bâtit, qui exhorte, qui console, oui, mais on peut même avoir une parole négative parce qu'à quelque part, Dieu veut secourir la personne de la loi des récoltes. La personne va récolter des choses dans sa vie et Dieu veut avertir la personne. Donc, il peut y avoir des paroles d'avertissement. Une fois, je me souviens, j'étais dans notre église en Alberta et puis il y avait un homme dans notre église qui avait beaucoup engraissé, puis continuait toujours à engraisser. Puis Dieu, l'Esprit de Dieu est venu fort sur moi, va l'avertir de sa situation, qu'il doit se repentir. Imaginez, est-ce que ça vous tenterait, vous, d'aller voir quelqu'un, donner cette parole-là? Et là, j'étais comme, oh non, Seigneur, je ne veux pas faire ça, ça ne me tentait pas. Quelqu'un avait engraissé, puis là, Dieu me disait, va lui dire de se repentir. Écoutez, en plus, je vais vous donner une petite note. C'était le multimillionnaire de notre église. À notre église, là-bas, en Alberta, il y avait beaucoup de gens fortunés, très, très fortunés. Puis lui, ça s'adonne que c'est le plus riche. Mais on n'écoute pas Dieu si les gens donnent beaucoup ou pas beaucoup. Hein. Ça n'a aucunement rapport. Dans mon esprit, Dieu me dit, va l'avertir qu'il doit commencer à maigrir parce qu'il va mourir avant son temps. Ce n'est pas une parole très positive à entendre, mais c'est une parole de Dieu. Puis ça dépend de toute la façon que la parole est livrée. N'est-ce pas? Est-ce que le cœur de Dieu est là? Mais là, savez-vous ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, Seigneur, mais je vais aller le dire à sa femme. J'allais le dire à sa femme. J'ai dit, écoutez, sœur, j'ai reçu une parole pour votre mari. Elle a dit, oh oui. J'ai dit, oui, ça concerne son poids. Va lui dire. Sauf que là, excusez, monsieur, mon frère, le multimillionnaire. J'ai pas dit ça. Puis là, j'ai dit, j'ai raconté ce que j'avais reçu, que Dieu voulait le préserver de la mort, tout ça, mais que Dieu l'appelait maintenant à prendre son corps en main, tout ça. Puis il m'a remercié, merci beaucoup. Puis il n'a pas maigri, mais en tout cas, j'ai oublié. Mais je vous donne ça, parce que des fois, on est là et on dit, ben ça se peut pas, il faut que ça soit toujours positif. C'est pas ça que le texte dit. Dieu peut venir secourir quelqu'un, mais la façon que ça va être fait, ça sera pas comme, « Hey, là, vous comprenez? » Ça sera pas comme... du jugement, ça sera pas du jugement, ça va être enrobé d'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? OK. Donc, une exhortation. L'objectif demeure toujours d'aimer la personne en l'exhortant avec amour. L'exhortation, c'est pour secourir la personne, pas pour les détruire. La prière peut changer une parole prophétique aussi en passant. Je prendrai pas le temps ce soir, mais dans vos notes, vous pourrez lire dans 2 Rois 20, verset 1. On parle d'Ézéchias ici. 2 Rois 20, verset 1, où il reçoit la parole, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Et dans 2 Rois 20, verset 2 à 6, là, on voit au verset 6 que Dieu dit, finalement, j'ajouterai à tes jours 15 années. Pourquoi? Parce qu'il a fait une prière à l'Éternel. Donc, la prière peut changer une parole prophétique. On peut dire, mais comment ça? Dieu déclare une chose négative, mais si vous priez, cette chose-là n'arrivera pas. S'il y a une repentance, cette chose-là n'arrivera pas. Donc, on peut comprendre ça aussi. OK, mon dernier point de la soirée. Comment pouvons-nous discerner les faux prophètes? Parce que là, jusqu'à présent, on a vu ici des paroles prophétiques. Comment on peut les discerner? Est-ce que ça confirme des choses dans mon cœur? Plein de choses qu'on a vues ensemble. Mais là, on doit aussi voir, on ne parle pas juste de la parole prophétique cette fois-ci, mais dans le ministère prophétique, certainement, il y a des gens dans l'office du prophète, puis il y a aussi des faux prophètes. Donc, on doit en parler dans notre série. Mon dernier point. Comment pouvons-nous discerner les faux prophètes? Déjà, je vais vous demander de répondre. S'il y a des gens ici, en levant la main, et je vais répéter pour nos amis sur Internet, si vous voulez discerner si quelqu'un est un faux prophète ou non, dites-moi au moins une chose. Quelqu'un en levant la main, une chose que vous faites dire, bien ça m'indique que la personne est un faux prophète. Il y a quelqu'un qui veut répondre? Riaz. Lorsque la prophétie lorsque la prophétie ne s'accomplit pas, certainement, là on peut le voir, ok? Est-ce qu'il y a d'autres paroles, d'autres façons? Mélissa? Oui. Donc le fruit du ministère, entre guillemets. Donc si les gens, après ce ministère-là, les gens sont abattus, sont déprimés, finalement, ok? Oui, M. Godot? Oui, si la personne contredit la parole de Dieu, déjà là, on peut voir, ok? Oui, Patrick? Si c'est pour son gain personnel, je pensais que c'était pour dire s'il mangeait la poutine. Non? Oui. OK. Il dit des choses pour son gain personnel, donc il manipule les gens pour avoir de l'argent. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, d'autres choses que vous pouvez voir? Oui, Stéphane? OK. Dans ton esprit, tu vas te sentir mal à l'aise, inconfortable. Hey, vous êtes super bon, excellent. Vous aurez tout dit, là. Est-ce qu'il y a d'autres choses? OK, c'est trop contrôlant. OK, ben c'est bon. OK. Premièrement, la première chose qu'on veut voir pour discerner un faux prophète, croyons premièrement que les faux prophètes existent. Croyons que les faux prophètes existent. Parce que des fois, on est tellement rempli d'amour, entre guillemets, qu'on veut se fermer les yeux puis s'imaginer que tout le monde est fin et qu'il n'y a pas de faux prophètes. Mais il y en a vraiment. Dans Matthieu 7, versets 15 à 16, ça dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? » Bon, c'est ça, une des choses, comme notre sœur Mélissa a mentionné, c'est par leurs fruits qu'on va les reconnaître. Je pense que c'est elle, quelqu'un d'autre, je ne sais plus. C'est ça. Donc, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Leur ministère, est-ce que ce ministère-là porte de bons fruits dans la vie des gens? Ou c'est la destruction? Comme ceux qui ont donné les paroles prophétiques des gens qui disaient, ben là, vous allez perdre votre maison, vos autos. Bien, on peut voir que ce n'est pas vraiment un bon résultat. On ne veut pas ça. Et aussi dans la vie des gens du prophète en question, celui dans l'office du prophète, il devra avoir le fruit de l'esprit en opération dans sa vie. Dans Galates verset 22-23, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, toutes ces choses-là. Un prophète qui n'a pas du tout ces choses-là dans sa vie, mais c'est tout le contraire, qui se dit prophète, faites attention parce que ce n'est pas un bon signe. Est-ce que ces prophéties se réalisent dans Deutéronome 18, versets 21 à 22? C'est Rias qui a répondu. Donc ici, Deutéronome 18, versets 21 à 22, dans la Bible du Sommeur, ça dit « Peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel, c'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. » Donc, la personne prophétise la fin du monde en 2016. Okay? Je déclare la fin du monde en 2016. Et puis en 2017, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Bien, on réalise que c'était un faux prophète. Mais, est-ce que c'est faux ou faire une nuance aussi? Est-ce que ça se peut aussi que celui qui a donné une fausse prophétie, après réalise, mais surtout en 2017, il risque de réaliser que c'était une fausse prophétie. Mais admettons, la personne déclare une chose. Puis là, après même, avant que ça arrive, admettons, la personne dit, non, finalement, je pense que je me suis vraiment trompé, se repent et dit, écoutez, j'ai dit une chose, mais je pense que j'étais à côté. Et se repent et reprend ses paroles. Est-ce qu'on va dire de cette personne-là que c'est un faux prophète? Non, la personne se reprend, elle se repent là, elle se reprend et elle se repent aussi. Comprenez? Donc, il faut faire attention, des fois on est tellement, c'est un faux prophète. Ça se peut aussi que la personne s'est trompée. Laissons un petit peu de place à la grâce de Dieu, OK, pour la personne. Mais on peut voir dans l'ensemble du ministère, si la personne fait toujours des fausses prophéties, mais ça ne veut pas dire que la personne a manqué le coup ou manqué son... sa shot, comme on dit en québécois. C'est pas parce que la personne s'est trompée une fois qu'elle est forcément un faux prophète. Peut-être qu'elle s'est juste trompée puis elle ose l'avouer. Quelqu'un qui ne l'avoue pas, qui va même défendre. Non, 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 c'était vraiment en 2017 qu'il y a eu la fin du monde, sauf que c'est une fin du monde invisible. Admettons. OK, comme une secte qui disait que Jésus était pour revenir en 1914. Puis finalement, Jésus n'est pas revenu en 1914. Ils ont dit, non, 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 Jésus est vraiment revenu, mais son règne est invisible. Bon. Et puis, ils viennent frapper à vos portes le samedi matin. OK? Bon. Ça fait que, mais ça, c'est une série de fausses prophéties. On peut savoir que ces gens-là sont des faux prophètes parce que les prophéties ne se réalisent pas. OK? Ils ne se réalisent pas. Par contre, si quelqu'un avait déclaré une chose, je ne sais pas, Patrick, tu vas ouvrir une cantine, je sens vraiment dans mon esprit, tu vas ouvrir une cantine puis vendre beaucoup de poutine. Puis après, l'Esprit de Dieu me dit, non, 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 c'est pas des poutines qui vont vendre, c'est du poulet Kentucky. Je dis, hey, je me suis trompé, Patrick, je vois plus des poitrines, je ne sais pas trop. Comprenez? OK, donc vous comprenez. Donc, on fait un petit peu d'humour, là, mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? On doit faire attention. Donc, il y a la parole qui ne s'accomplit pas, quelqu'un qui est dans le poste ou dans l'office du prophète. Il y a une différence entre celui qui est dans l'office du prophète et quelqu'un qui prophétise dans l'Église. Parce que la Bible dit, nous sommes tous appelés à prophétiser. Donc, si on est tous appelés à prophétiser, quand on prophétise, on y va selon notre cœur, les choses qu'on reçoit, ou peut-être vous avez une vision et puis vous parlez comme ça, mais on sait que vous n'êtes pas là pour établir une nouvelle doctrine dans l'Église. Ce n'est pas l'objectif. Vous voulez édifier, bâtir quelqu'un. Puis si vous vous trompez, ce n'est pas la fin du monde. On peut se reprendre et dire, ben, je me suis trompé, excusez-moi. Vous comprenez une différence? Si on ne se donne aucune place à faire des erreurs, on ne fera jamais rien. On ne fera jamais rien parce qu'on va dire, ben là, il faut que je sois parfait. Puis on est tellement nerveux de se tromper, on ne fait jamais rien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on apprend à marcher. On apprend à marcher en prenant un premier pas. OK. OK, donc, est-ce que ces prophéties se réalisent? Ne limitez pas votre discernement à la véracité du message. Quelqu'un peut dire, ben, il est correct comme prophète. Regarde, ça s'est vraiment produit comme il avait dit. Ou ce qu'il dit en ce moment, c'est vraiment vrai. Si on voit dans Acte 16, versets 16 à 18... On peut voir ici l'histoire de l'esclave qui prophétisait et elle disait la vérité. Dans Actes 16, versets 16 à 18, « Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête, « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé ou fatigué, se retourne et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » À l'instant même, il la quitta. Donc, cette femme-là disait la vérité, mais c'était par un esprit de divination. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire si les choses sont véridiques. La personne peut dire des choses qui sont vraies puis être animée avec un mauvais esprit. Là, vous dites, là, c'est trop compliqué, cette affaire-là. Comment est-ce qu'on va faire? On va être à l'écoute de l'Esprit de Dieu dans notre esprit. C'est ça qu'on va faire. Sauf que ne limitez pas votre discernement à la véracité du message. On ne peut pas juste isoler le message ou le contenu d'un message. Il faut voir la vie de la personne. Est-ce que la personne, en général, porte le fruit de l'esprit? Est-ce que de bons fruits qui découlent de ce ministère-là? Est-ce que, comme la femme ici, avec un esprit de divination, est-ce que l'objectif de ces prophéties, est-ce que c'est juste pour soutirer de l'argent des gens? Il y a des gens comme ça dans le ministère, entre guillemets, là, dans le ministère, qui sont là, et puis ils attirent les gens vers eux pour avoir des prophéties, pour donner à leur ministère aussi, donner à notre ministère. Et peut-être en ce moment, pendant que je vous parle, vous voyez des photos de personnes que vous avez déjà vues sur Internet ou en vraie vie dans des réunions. Puis on parle toujours d'argent. Semer. Est-ce que c'est biblique de semer dans l'œuvre de Dieu? Oui, c'est biblique. Mais il y a un désordre quand on parle toujours d'argent. Amen. Avez-vous remarqué qu'à l'Église, on parle d'argent chaque dimanche matin? Chaque dimanche matin, on va mentionner les dîmes et les offrandes, mais on ne passera pas 3 heures pour en parler. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le but. On n'est pas là juste pour parler d'argent. On est là pour semer dans l'œuvre de Dieu, oui, pour honorer notre Dieu, mais pour grandir dans les voies de Dieu. Puis savez-vous ce que j'ai remarqué? Puis je vais vous dire une chose, là. Je vais vous dévoiler une chose. Ben, je ne peux pas, parce qu'on va être sur Internet. Mais nous sommes bénis. Nous sommes bénis et on ne met pas de pression sur les gens. On ne met pas de pression sur les gens, on met la pression sur Dieu. Moi, c'est là où je mets la pression. Je dis, Seigneur, on a tel besoin cette semaine. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire. Et on a toujours eu tout ce qu'on avait besoin, puis sans mettre de pression. Puis j'ai déjà dit, le jour que je commence à m'inquiéter pour les finances de l'Église, c'est le jour que j'arrête d'être pasteur. Si mon Dieu n'est pas capable de prendre soin de son Église, on a un problème. Si je suis obligé de mettre la pression sur les gens pour que Dieu prenne soin de son Église, non, ça ne marche pas, ça. Comprenez-vous, ça ne marche pas. Dieu prend toujours soin de ses affaires. Mon Dieu est responsable. Moi, ma job, mon travail, c'est de prêcher et de dire ce qu'il veut que je prêche. Je ne mettrai pas la pression sur les gens pour avoir de l'argent. Donc, les gens qui sont là tout le temps en train de siphonner de l'argent, faites attention. OK. Je continue avec comment on va discerner. On dit, OK, mais là, la personne peut dire quelque chose qui est vrai, mais l'ensemble de son ministère, ça cloche. Il y a des choses qui ne vont pas bien là-dedans. Comme la prophétesse ici, là, la fausse prophétesse, elle soutirait de l'argent. On peut examiner ces choses-là. OK, discerner. Ressentez-vous un esprit, un mauvais esprit ou une mauvaise présence quand la personne parle? Vous recevez une parole d'une personne, vous ne la connaissez pas, là, mais là, vous ressentez quelque chose, vous vous sentez inconfortable, comme notre frère Stéphane a dit, je me sens tout à l'envers, je me sens pas bien. Ça, c'est un signe, c'est l'Esprit de Dieu qui prend sa cloche, là, puis fait « ding, 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 ding » dans votre esprit. Quand on se sent tout croche, c'est un signe. Amen? Est-ce que vous dormez, là? OK. Est-ce que la parole de Dieu est son autorité ultime ou non? Vous parlez avec la personne, « Écoute, tu m'as dit telle parole, mais la Bible me dit le contraire. » Puis là, la personne n'est pas du tout ouverte. Elle dit, « Écoute, moi, j'ai plus de révélations que toi. » Puis, regarde, tu dois simplement croire ce que je te dis. Peu importe ce que la Bible dit, tu dois croire ce que je te dis. Non, on ne va pas croire ce que tu dis, parce que si tu ne crois pas, si tu n'es pas prêt à te soumettre toi-même à la parole de Dieu, tu n'es pas en mesure de m'enseigner. Puis, je ne reçois pas tes paroles. La personne qui se met au-dessus de la Bible, faites-moi confiance. Non, on fait confiance à Dieu. Amen. Est-ce que la personne est insultée ou offensée par l'examen de ses paroles? Bien, mon frère, tu m'as donné telle parole, mais je remets telle chose en question. Vous arrivez avec une bonne attitude, pas méchant, là, mais vous êtes super gentil, puis vous êtes là, puis je dis, si je suis pas très certain, si la personne est offensée, puis « Hey, là, t'es de Satan », puis « Non, 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 il y a un problème, encore une fois, il y a un problème à quelque part. » La personne est peut-être un faux prophète. Un vrai prophète de Dieu va accepter de se faire remettre en question parce que la Bible dit « examinez toutes choses ». C'est-à-dire que vous êtes juste en train de répondre à l'appel divin d'examiner. Puis la personne peut vous dire « Ah ben, regarde, il y a tel verset que je chantais vraiment, ce verset-là de la parole de Dieu était pour toi. Ah, OK, il y a même un verset pour appuyer l'affaire. » Oui, oui. C'est-à-dire que, voyez-vous, là, vous allez être en sécurité, puis le prophète de Dieu va même être heureux parce qu'il va pouvoir vous encourager dans le bon chemin. Donc, les réactions, là, quelqu'un hey, « remets-moi pas en question », non. Non, non, ça ne marche pas non plus. Est-ce que la personne accepte le fait qu'elle ne soit pas infaillible? Même les prophètes, même quelqu'un qui est dans l'office du prophète peut se tromper. Est-ce qu'il peut se repentir aussi et dire, écoutez, je me suis trompé. Je pensais que c'était ça, mais j'ai vraiment mal entendu. Je vous demande pardon. Mais ça, c'est un signe d'un vrai prophète qui va s'humilier et dire, je me suis trompé. OK? Est-ce que la personne s'élève, fait sa promotion ou attire les gens vers elle au lieu d'attirer les gens vers Jésus? C'est une autre chose. Ah, c'est comme, mais le prophète un tel a dit ceci. Le prophète un tel. Puis là, on passe des gens en entrevue qui sortent de la réunion. Comment vous avez aimé la réunion? Ah, ben le prophète un tel m'a dit ci, puis j'ai été tellement béni par le prophète, par la révélation du prophète. Je vous dis des choses, là. Peut-être vous voyez des visages en ce moment-là. Combien d'entre vous voyez des visages, là? Mais le prophète m'a dit ci, puis là, le prophète m'a dit ça. Puis faites attention, si la personne élève un homme, si le fruit du ministère, c'est d'élever un homme, on a un problème. On devrait élever Jésus. J'ai reçu une révélation de Jésus dans la réunion. Jésus m'a parlé. L'Esprit de Dieu m'a révélé ceci de ma vie. Ça, c'est le bon résultat. On ne devrait pas élever les hommes. Comprenez ceci, on peut honorer le ministère que Dieu a établi. Faut être équilibré. On peut honorer, dire, je suis vraiment béni par tel ministère. Leur ministère m'a béni. Mais la personne qui va être glorifiée, ce n'est pas l'homme, ça va être Jésus. Amen. OK. Est-ce que la personne recherche un gain personnel ou par son ministère prophétique? Personnel. Donc, quand je vous fais une prophétie, je m'attends d'avoir un retour. Faites attention. OK. Donc, je termine avec tout ça. Notre responsabilité, là, êtes-vous d'accord? Vous allez dire, vous êtes tous responsables d'évaluer les prophéties, d'examiner. Amen. Vous avez une responsabilité. C'est pas juste entendre, c'est dire, OK, je vais faire quelque chose avec cette parole. Le premier point qu'on a vu, c'était, on va livrer le bon combat. On a parlé un petit peu du négatif, mais dans notre monde chrétien, il y a du négatif, puis il faut en parler pour vivre le positif. Si on connaît le négatif, on va dire, ah, ben là, je peux discerner les bonnes paroles qui viennent de Dieu. Mes frères et mes sœurs me donnent des paroles, ils prient, ils cherchent le Seigneur, ils ont des visions, des paroles qui viennent de l'Esprit de Dieu, qui me partagent. Dans mon esprit, j'y reçois, je sens que ça, c'est vraiment pertinent, puis ça vient me toucher. Gloire à Dieu, je peux prendre ces paroles-là. Et là, Quand je sais c'est de Dieu, j'ai passé à travers ma série de questions, je me suis examiné, j'ai examiné la parole. Mais après toutes ces choses-là, là, je peux prendre la parole et dire « Hey, c'est de Dieu cette affaire-là ». Comme la parole que j'ai, que je vous ai faite entendre, celle de Cindy Jacobs, c'est une femme de Dieu, consacrée à Dieu, avec une réputation super crédible. Puis là, je peux dire, ben cette parole-là, non seulement elle vient d'une source assez certaine, mais non seulement ça, dans mon esprit, je l'entends, je reçois. Puis en plus, j'ai eu des confirmations. Donc vraiment, si vous avez reçu une confirmation, admettons, prendre quelqu'un d'autre, Martine, elle reçoit une parole qu'elle va conduire un autobus jaune pour aller chercher les enfants chaque dimanche matin avant d'aller à l'église. OK, c'est super. Ouh! Elle reçoit cette parole-là, mais deux, trois prophètes, ils disent, « Martine, je te vois conduire l'autobus de l'église, puis tu as toujours plein d'enfants. » Mais là, après trois prophéties, elle commence à dire, hey, « je sens vraiment, c'est ma destinée. » Je te dis comme exemple, OK? Elle croit vraiment c'est de Dieu, mais il n'y a personne qui a donné les clés de la vanne encore. Mais là, elle dit, « Seigneur, là, elle prie, Seigneur, je te prie que tu fasses une place pour moi, que tu vas ouvrir les portes. » Et puis là, finalement, quelqu'un dit, hey, « J'aimerais ça vraiment te prêter les clés de la vanne. » Et puis là, hallelujah, ça vient d'arriver. Comprenez-vous? Elle a livré le bon combat de la foi pour la parole prophétique qui avait été confirmée, qu'elle croyait qu'elle avait reçue de Dieu. OK, donc ça, c'est bon. Comment interpréter les paroles? On a vu qu'il y avait paroles bibliques, extra-bibliques et anti-bibliques. On refuse anti-bibliques. Les lignes directrices, on veut demeurer sensible à l'esprit. On veut faire appel aux conseils spirituels dans nos vies. Juger les paroles que vous recevez. On a vu comment on va retenir ce qui est bon et on laisse passer ce qui est moins bon. On a vu aussi que Dieu peut se servir des illustrations. C'est pour ça, des fois, quand on va prier ce soir, puis vous recevez des visions, peut-être vous allez dire, hey, « Je vois un gros beigne. » Mais là, vous dites, « Ah, c'est trop stupide, ça se peut pas. » Mais peut-être que ça se peut que la personne priait sur un sujet et le beigne dans votre vision, c'est une confirmation. Ne méprisez pas ce que vous recevez. Puis si la personne dit, « Je ne sais pas », ben peut-être vous avez imaginé la chose. OK? Mais quand c'est spontané, quand c'est une vision, quelque chose qui arrive comme ça, puis c'est spontané, trois quarts du temps, c'est vraiment de Dieu. OK? Donc, osez, ne soyez pas orgueilleux et timide. La timidité, c'est de l'orgueil. OK? Donc, si on a vu que Dieu peut utiliser des illustrations et comment il peut le faire ce soir, c'est par des visions. Et on a vu une série de questions qu'on peut réécouter sur enseignement.com pour voir, OK, j'ai reçu une parole, qu'est-ce que je peux faire avec? On va réécouter l'enseignement pour voir les questions et on peut se poser les mêmes questions pour évaluer le tout. Comment gérer les paroles inexactes? On va prendre des roches et on va lapider les gens qui se trompent? Non, on a vu, même l'apôtre Paul s'est trompé. Puis finalement, il était un homme de Dieu quand même. Comment gérer une parole prophétique négative? On a vu plusieurs points qu'on ne va pas répéter. Vous pourrez réécouter l'enseignement. Puis comment discerner les faux prophètes? On a vu tout ça aussi. On va voir l'ensemble de sa vie. Et voilà plusieurs choses qu'on a vues ce soir. Hein? On a vu plusieurs choses et on poursuit. Il nous reste deux autres semaines où on va continuer dans le ministère surnaturel. Mais là, ce qu'on va faire ce soir, il nous reste 20 minutes environ. On peut même dépasser quelques minutes. Ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de différent ce soir. On va se mettre en 6, des groupes de 6, écouter mes instructions, puis après, on va pouvoir se séparer. Mais ce que j'aimerais vous inviter à faire, vous allez vous mettre dans des groupes d'environ 6 personnes. Ça peut déborder, certes, ou même moins, dépendamment du regroupement. Mais ce qu'on veut faire, c'est choisir une personne dans le groupe où vous allez tous prier pour une personne ce soir. OK? Vous allez prendre une personne et la personne va être la vedette de votre groupe et vous allez tous prier pour la personne. Et là, si vous avez votre calepin, pendant que vous priez, je vais mettre de la belle musique de louange. Là, vous ferez écrire ce que vous recevez. Au début, on va juste prier. On va juste prier et soyez à l'écoute. Peut-être Dieu va vous donner une vision, peut-être une parole de connaissance, une parole de sagesse, juste un mot. Et au pays des pays, vous allez juste prier une prière de bénédiction. C'est toujours bon, ça. Mais là, comment vous allez faire pour déterminer la personne? On pourrait peut-être dire, ben, moi, j'ai besoin de prière. S'il y en a dans le groupe qui dit, moi, je veux l'être. Mais sinon, soyez dirigés de l'esprit. OK? Donc, êtes-vous prêts? Je vais juste faire un mot de prière avant de vous relâcher. Puis après, on va vivre un temps super béni. Moi, je suis excité. Êtes-vous excité? Amen. Père éternel, on te remercie parce que tu es un Dieu vivant. Tu parles encore. Merci, Seigneur Dieu, parce que les dons sont pour nous. Nous y croyons, Seigneur Dieu. Nous croyons que ce soir, tu vas venir nous visiter. Esprit de Dieu, nous t'invitons, nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ton cœur d'amour pour chaque personne ici. Et je prie ce soir que chaque personne ici puisse vraiment être encouragée dans ce ministère, qu'on puisse vraiment apprendre à couler avec toi. Merci, Seigneur Dieu, que tu viens remplir cette place de ton onction, de ta présence. On veut couler avec toi ce soir. On veut être une source de bénédiction. Et Seigneur, on te remet le restant de ce temps, sachant, Seigneur Dieu, que tu vas te glorifier à travers nos vies. Amen. Sois béni. Amen. Et juste une dernière chose, si jamais vous recevez une parole pour quelqu'un d'autre qui ne fait même pas partie de votre groupe, c'est correct aussi. C'est correct d'aller donner cette parole à la fin. Je sais que ça s'est passé même la semaine passée. Des gens qui disent, ben, c'était pas dans mon groupe. Moi, j'ai reçu une parole pour quelqu'un d'autre. Allez-y. Allez partager ce que Dieu vous donne. C'est ça qu'on veut, qu'on puisse édifier, bâtir, déclarer des paroles de vie. Amen. Donc, voilà, on peut maintenant se regrouper en groupe de 6, 7, 8.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.